Ça va, bande de beaux gosses? Allez, c'est parti. À tout de suite. On attend les prochaines mesures du prochain morceau qui nous servira de pause pour la pause café dans 1h30, 2h. Comment ça commence bien cette histoire? Comment ça va? Vous, merci d'être avec moi en cette heure insolite, 11h24. Qu'est-ce que c'est que cet horaire pour un lancement de stream? C'est n'importe quoi, je suis bien d'accord avec vous, mais j'ai une bonne excuse. D'abord, je vais remercier tous les subs du matin, parce que c'est folie. C'est plus de subs et c'est très gentil. Camille, Nota Girl, merci pour ce 12e mois d'abonnement, un an. Camille et moi, tous les deux. Yes. Olistou, merci pour le 12e mois d'abonnement. Un an, tous les deux. Merci Olistou, c'est super gentil. Place du Paradis, ça c'est un joli pseudo. 9 mois d'abonnement. 9 mois, c'est joli aussi, ça renvoie à autre chose. On parle d'amour toujours. Vicitou, merci pour le 9e mois d'abonnement. Trop mignon. Salut tout le monde, je ne pensais plus vous voir aujourd'hui. Me dit Place du Paradis qui me vous voit, c'est trop mignon. Vieux motard que jamais. Non, mieux vautard que jamais, c'est ça que je voulais dire. Et donc je suis là avec un petit peu de retard, mais j'ai une bonne excuse, je vais vous dire pourquoi. Mademoiselle Camille, merci pour le 9e mois d'abonnement et le très gentil message qui me touche. La Contamine 46, merci pour ton sub de bon matin, merci beaucoup. Je vous retrouve après quelques semaines de vacances caniculaires où je me suis caché dans une cabane dans les arbres. C'est cool, la canicule elle se poursuit, je crois qu'il va refaire chaud là. Hein. Anti-Madridista est là, comme j'ai envie de dire, comme chaque matin. Merci à toi, c'est super gentil. Merci pour le 3e mois d'abonnement. Je remercie Julo, mon fidèle partenaire, mon fidèle modérateur qui est là ce matin et qui s'est abonné pour un 11e mois il y a quelques heures, ainsi qu'Annie qui vous a envoyé 24 abonnements à la communauté, profitant du fait que je n'étais pas en live pour le voir, mais je l'ai vu. Annie, merci, comment ça va? Vous allez bien? Vous? Voilà, j'ai une bonne excuse, je vais en parler dans un instant. Matt31670, merci pour le 12e mois d'abonnement, ça fait trop plaisir. Il faut que je bosse sur mes badges, bordel, pour au-delà de l'année, puisque on a découvert le badge des 12 mois, le joli truc oblongue cylindrique dans lequel on met du café chaud. Thermos. Ce matin sur Europe 1, j'ai annoncé que j'allais me faire tatouer un gigantesque thermos dans le dos. Je suis pas sûr de ce move. Gerbette, merci pour le 9e mois d'abonnement. Merci Carte 127 pour ce 10e mois d'abonnement. Comment ça va, vous? Béné, j'ai pas vu ton sub, mais je te remercie. 5 mois d'abonnement, le meilleur stream info avec un grand animateur comme vous. 1m67, Béné, pour votre serviteur. On est loin du grand animateur que tu supputes. Oui, Joe, j'ai vu. Joe, tu veux que je le dise maintenant, là, en live, ou tu veux que je te l'envoie un message comme tu m'as dit? On est en train de travailler sur la rentrée avec Joe, il a besoin d'une phrase clé. Joe, je te l'envoie tout à l'heure ou t'as besoin que je te le dise maintenant? Joe. Annie, mais que se passe-t-il? Je rentre d'une balade en vélo en fin de matinée, je vois la notif pour le début de ton live du matin. Ah, je regrette d'avoir entendu la partie dont tu parlais des subs. Coucou tout le monde. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pareil? Ok, il y a Joe qui veut que je dise dans le chat maintenant une phrase. Attends, tu me l'as envoyé aussi par DM. Attendez, on fait nos petites histoires avec Joe. Parce qu'on prépare la rentrée avec Joe, notamment un nouveau truc là, de folie. Alors tu... Ouais, retrouvez-moi. Alors, je t'en fais plusieurs, Joe, t'es prêt? Retrouvez-moi tous les matins pour ma matinale sur Twitch. Retrouvez-moi tous les matins, ou presque, pour la matinée Étienne sur Twitch. Je t'en fais plusieurs. Retrouvez-moi tous les matins, ou presque, sur Twitch pour la matinée Étienne, une revue de presse. Quelle est formidable. Retrouvez-moi tous les matins pour la matinée Étienne, grande revue de presse avec vous sur Twitch. Ça va, Joe? T'en veux d'autres ou ça te va? Excusez-moi, on fait nos petits enregistrements. C'est bon pour toi, Joe? Tu me dis, hein? Je pourrais t'en refaire d'autres, bien sûr. Je t'en ferai d'autres. Qu'est-ce que c'est que tous ces subs là? C'est parce qu'il est 11h28 et que vous n'êtes pas habitué, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous remercie. On enchaîne. Annie, merci pour les bits. Merci beaucoup. Anne de Dube, comment vas-tu? Bonjour pour le sixième. Merci pour le sixième mois d'abonnement. Est-ce que tu peux passer le bonjour à ma maman Odile qui t'écoute? Odile, je vous embrasse très fort et merci d'être avec nous. Merci beaucoup Anne de Dube pour le sixième mois. Docteur Vanel, merci pour le 9e mois. Hazard01, il n'y a que des habitués, c'est formidable. Merci pour le 12e mois d'abonnement. Bourzouf, merci pour le petit message qui me touche. Merci pour le 5e mois. Mam Gohanag, il n'y a que des habitués. Merci pour le 3e mois d'abonnement. Merci. On va se régaler cette saison. On est en train de travailler sur un truc avec Joe là, une émission hebdomadaire qui va arriver là, je vous donne pas la date, ça va démarrer très bientôt, on va se régaler, c'est toutes les semaines, bah ouais, hebdomadaire, un truc, on va se régaler, sur Twitch bien sûr. Sarah314, merci pour le 8e mois d'abonnement. Coucou de Casablanca, t'as bien de la chance. Carte 127, il doit faire chaud non? Merci pour le 10e mois d'abonnement. Gerbette, merci pour le 9e mois, vous êtes formidable. Merci à CoRentOne pour le 5e mois, à Seb27370 pour le Prime, et Flavius Aesius 1453, ça c'est du pseudo, pour les bits. Ça va? Petite excuse donc pour ce matin, voilà où j'étais ce matin. Allons voir le compte Twitter de Papy Sam. Ce matin, je vous ai fait une petite infidélité. Hop, donc je l'ai tweeté ce matin, à l'heure où j'aurais dû lancer mon stream. En ce lundi, j'étais chez les amis d'Europe 1. Voilà. D'où ce petit tweet posté à 9h10, stream un peu retardé ce matin, rendez-vous vers 11h30, vous avez vu quelle heure il est, 11h30, je ne me moque pas de vous, hein. Mais quand même en direct avec l'ami Thomas Hill, c'est lui le beau gosse là, à vous de deviner la radio, je préviens, pas facile, c'est vrai que celle-ci, elle était difficile. On a fait une grosse, c'était une heure ou une heure et demie d'émission en direct ce matin avec Thomas, c'est passé très très vite. Le club de l'été, c'est drôle parce que c'est une émission que j'ai présentée sur Europe 1 il y a quelques années, mais c'était le soir à l'époque. Thomas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je me suis régalé, mais je m'en serais voulu de ne pas vous faire de matinée Étienne ce matin, d'autant que samedi et dimanche, je n'étais pas avec vous, parce que j'étais en week-end à la campagne avec la famille. Et donc, j'ai mis le réveil ce matin à 5h, j'ai lu les journaux jusqu'à 8h, puis je suis parti à Europe 1, et puis je me suis dit, allez, à 11h30, je lance un stream. Voilà. Quel était le sujet ce matin de l'émission de Thomas? Moi. C'était moi. On n'a parlé que de moi. Et de Rennes, et de musique rock, et de tatouage. Voilà, vous pourrez l'écouter en podcast, je pense, sur Europe 1. En tout cas, c'était très sympa. Je vous lis un petit peu, et puis on démarre, parce que j'ai pas mal d'articles pour vous de côté. Assez sérieux d'ailleurs, vous verrez. C'est oulala, il y a des choses, notamment au niveau de l'actualité nationale, ça rigole pas. On va voir ça. Je vous lis un petit peu. Il y a que d'Heure TV qui me dit on s'est croisé ce matin à Europe 1. Que d'ailleurs, mais alors qui étais-tu? Parce que j'ai croisé plein de gens ce matin en Europe. Peux-tu te décrire? J'ai croisé plein de gens. J'ai un rapport très particulier à cette radio où j'ai travaillé, que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, c'est toujours un plaisir d'y retourner. Donc, Keder, dis-moi qui tu étais. Qui tu étais? Ça va mieux les dents? Bof, bof, bof. J'ai des soucis en ce moment. Là. Une dent qui me fait souffrir. Alors, pop, 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 je suis à mon deuxième passage chez le dentiste. Je repasse cet après-midi. Voilà. J'ai le droit à mon petit doliprane toutes les 6 heures. Là. Ouh, je prends cher. Je prends cher. Mais on va oublier tout ça. On va oublier tout ça. Est-ce que c'est rémunéré une intervention sur d'autres radios? Non, non, je suis en invité là. Un invité n'est pas payé hein, qu'on a invité comme ça d'un média. Merci mademoiselle Camille et bisous à ton papa. Juste à côté du studio, t-shirt gris, j'étais devant l'ordinateur. Ok, Color TV, ok, je vois. J'adore, j'adore. Ouais. Merci, merci Jeremy Land pour le très gentil message et pour le deuxième mois d'abonnement aussi. Merci Laurence Rob pour les bits. Allez, je réponds à quelques-unes de vos questions. Est-ce que je fais toujours de la moto? J'ai vendu ma grosse moto Manon. Et puis j'ai gardé un petit scooter pour là, par exemple, ce matin, Europe, il faisait beau, je suis parti en scooter. Comment on devient animateur radio? Tiens, Manon, il n'y a pas de règle, hein, c'est un métier très ouvert, on peut y arriver de mille façons différentes. Voilà, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. J'ai pas vu Prey encore, Lost in Translation, hein, ce nouveau film, c'est quoi sur Disney Plus là, le nouvel opus de Predator, je l'ai pas vu encore parce que j'ai pour tout vous dire, je voulais le regarder hier soir. Il y a Jean Sarkozy qui est avec nous, le vrai Jean Sarkozy bien sûr, qui vient de prendre un 10e mois d'abonnement et qui m'écrit en plus que des numéros 10 dans ma team. La question est de savoir si c'est Jean Sarkozy ou si c'est Booba du coup. Pas sûr. Kalindi, en tout cas, il y en a un qui est des deux qui est plus discret que l'autre sur le plan médiatique ces derniers temps. Kalindi vient de signer son 12e mois d'abonnement et vous êtes trop gentil. Donc ce matin, Europe 1, hier soir, je voulais regarder Prey, le nouvel opus de Predator sur Disney+, je crois. Sauf que eh bien, j'ai travaillé jusqu'à tard sur cette nouvelle émission hebdomadaire qui arrive bientôt, dont je vous ai déjà parlé. Je réserve pour l'instant la date, enfin on l'a déjà décidé avec Joe, on sait déjà quand ce sera, mais voilà, j'ai déjà calé les trois invités, je peux vous le dire, puisqu'on aura trois invités à chaque fois, chaque même jour. Voilà. Et merci encore pour vos propositions, parce que vous m'avez fait plein de propositions pour baptiser cette émission. Je n'ai pas encore choisi. Et je vous en dirai plus à mesure qu'on va approcher de la date. On est au début du mois d'août, on a le temps, on a le temps. TV Wabit, merci pour le Prime. C'est très gentil. Le talk show, ouais, c'est un talk, ouais, c'est des gens qui, oui, c'est des gens qui parlent et qu'on voit, donc on peut dire que c'est un talk show. Ouais, oui, c'est vrai que j'étais censé me faire pousser la moustache, et puis j'en ai parlé à Hélène, vous savez que elle a une place un peu importante dans ma vie, mon amoureuse, et je lui ai demandé son accord, son assentiment, et elle a pas donné le feu vert sur la moustache, donc voilà. Parfois, j'en fais qu'à ma tête. Là, pour le coup, j'ai plutôt écouté l'amour et désolé, j'ai pas laissé pousser la moustache. On le fera un jour pour rigoler. On le fera un jour pour rigoler. Alors, désolé, hein, l'actu arrive, mais j'aime bien vous lire au début, ça me met de bonne humeur, en fait. Oh yes. Écrivain a vu Prey, donc le dernier opus de Predator sur Disney+, et nous dit, et j'ai envie de le croire, d'ailleurs, écrivain, j'ai vu, tu m'avais envoyé un message, je vais te répondre par ailleurs. Prey est un film génial à mon humble avis. Aucun temps mort, et avoir transposé ça au 17e ou 18e siècle chez les Comanches, c'est une idée géniale, les décors sont somptueux. Ok. Très bien, je vais le voir ce soir. Sauf si je continue à bosser sur mon émission, parce que du coup, je suis en train de travailler, notamment sur la programmation, tout ça, voilà. Je vous lis. Est-ce que l'émission hebdo remplace la matinale? Oh que non, Caradoc. En fait, l'émission hebdo que je vais vous proposer là, à la fin du mois d'août pour le premier numéro, qui se tiendra le soir. Allez, je donne un indice de plus. L'émission sera le soir, avec trois invités pour parler d'actualité, donc. Ne remplace pas du tout la matinée. Tiens, 7 en plus, 7 en plus, 7 en plus. C'est cadeau, c'est cadeau. Un petit peu de musicalité caféinée. Manon Bou, elle était magnifique, ta grosse moto, en tout cas, V à tous les motards du coin, nous dit Manon. Ah, maintenant tu connaissais ma moto. Merci 66 Abigail pour le 9e mois d'abonnement et le très gentil message. Vous êtes. Il y a tellement de bonnes ondes dans ce chat, c'est presque trop. On pourrait l'appeler la soirée Étienne. On pourrait l'appeler la soirée Étienne. On pourrait. J'ai pas choisi encore. Mais vous avez fait plein de sympathiques propositions. Ah, quel jour. Ok. Ah, c'est marrant, il y a plein de gens qui ont aimé Prey. Thierry Pimpouet pense qu'il y a des petites lacunes au niveau du scénario, mais certains ont beaucoup aimé, quoi. Meilleur prédateur depuis le premier, me dit Valben. Wox, ça fait envie. Ça se passe en 1719, donc 18e siècle. Merci Bardval, c'est bien ce que je pensais. Écrivain, tu t'es gouré de siècle, bordel. C'est 18e. Manambou, Papy Sam, je voudrais vraiment te proposer un stream running. Tu peux t'en parler sur Twitter. Envoie-moi un DM. Tu sais que je cours beaucoup moins qu'avant. Hein. Beaucoup moins qu'avant, sinon je n'arrive pas à streamer. Pas tout faire. Ok, bon, bah, je pense qu'on va démarrer. En tout cas, merci d'être aussi nombreux et de m'envoyer toutes ces bonnes ondes. Là, c'est cool. Je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux malgré l'heure un peu étrange et tardive. Donc, on va faire une matinée Étienne comme d'habitude, 2-3 hein, heures. C'est pas parce qu'on commence plus tard qu'on va s'arrêter plus tôt. Ok ? Tu manques à Fort Boyard. Ah ouais, mais c'est fini, Fort Boyard. J'arrête les conneries, j'en ai marre de me faire mal. C'est fini. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire ? Un petit sommaire en image pour commencer ? Je vous montre toutes les unes qu'on va évoquer, tous les articles. Vous allez voir, c'est assez sérieux ce matin. On va pas rigoler des masses. Quoique, même sur les choses sérieuses, on arrive à faire des petits pas de côté, et heureusement. Hein. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire en image ? Je vous montre toutes les unes, tous les articles qu'on va évoquer en musique. Prêt ? J'attends votre go. C'est vous qui décidez, en fait. C'est vous les patrons. C'est parti, let's go. Clémentico, ce n'est pas un mirage. Le live est parti à 11h30 ce matin. Je faisais des trucs ce matin sur Europe 1. C'est parti, sommaire en image. Waouh, c'est trop bon ça. Hop, on va se recaler ça pour la petite pause café tout à l'heure dans 1h30, 2h parce que c'était vraiment très très bon. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Micro cassette, c'est le nom du titre. Et l'artiste est Nick Culbertson. Je connais pas, mais c'est carrément bien. Vous avez vu, c'est sérieux ce matin. Hein, vous avez vu les articles ? Ouh, beaucoup d'actu internationale, beaucoup de gros dossiers. Ici, on fait l'impasse sur rien. Je vous avoue que parfois, je t'arrive sur un sujet, je sais pas, le Proche-Orient, par exemple. Les relations entre Israéliens et Palestiniens. Franchement, hein, la tentation est grande de faire l'impasse. C'est des sujets extrêmement clivants. Voilà. Mais moi, j'ai fait le pari, quand j'ai lancé cette chaîne sur Twitch, qu'on pouvait parler de tout. Hein. Je crois qu'on peut parler de tout, mais ça dépend avec qui. En faisant appel à l'intelligence des gens avec qui on en parle. Donc, on peut parler des sujets les plus clivants. C'est ce qu'on fait tous les jours. Je ne passe jamais une actu sous silence en me disant « Ah ouais, on va pas parler de ça, c'est trop compliqué. » Là, je fais appel à votre intelligence et ça fonctionne bien. Donc, tous les sujets, y compris les plus compliqués, on les évoque. Et Dieu sait ce matin, si ça va être un peu compliqué, bah, c'est comme ça. On va pas rigoler, on va pas se taper sur le bedou avec des blagues toutes pourries. Bah, c'est pas grave. Voilà. De temps en temps aussi, il faut parler des choses un peu sérieuses, même quand elles fâchent. Est-ce que tu es prêt à parler de l'indépendance de la Bretagne? Du coup, me demande de Yo Ascan. Faut pas déconner. Faut pas déconner quand même, hein. Vous voulez pas qu'on parle de pain au chocolat, de chocolatine tant que vous y êtes? Bande de foufous, belle et zen avec Ney 15 ou Naïs 15 du coup. Merci pour l'abonnement. Voilà. Merci pour ça, Samuel, de ne pas esquiver des sujets comme ceux-là. Scooby-Doo, bah oui, je trouve ça con, je trouve ça con, je trouve ça con. Est-ce que tu es prêt à parler de la victoire de Lorient hier du coup, demande Cyril, face à Rennes, c'est ça? Rennes qui recevait, premier match de la saison, derby. Breton, au stade rennais, hein, au Roison Park, l'ancien stade de la route de l'Orient, Rennes qui s'incline? Non, on va pas parler de ça. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Allez, on y va. Les amis, donc là, on a fait le sommaire en images très rapidement pour ceux qui n'avaient que 2-3 minutes à passer avec nous. Pour ceux qui ont un quart d'heure, 20 minutes, voici le sommaire. Je vous annonce de quoi on va parler. Et puis, après, pour ceux qui pourront rester un peu plus longtemps, ouh, regardez le joli raid qui arrive. Pour ceux qui pourront rester un peu plus longtemps, 2h30, 3h, eh bien là, on lira tous les articles et on en parlera, on échangera, on essaiera de comprendre. Là, on se proposera mutuellement nos regards sur l'actualité, on fera des sondages, on essaiera de comprendre et d'être plus intelligent ensemble que tout seul. C'est l'info augmentée, je vous lis des infos, vous me donnez des infos, on mixe le tout et on arrive à un résultat qui est extrêmement intéressant. Je remercie l'ami Martin. Regardez le joli raid qui vient de nous parvenir. Martin, votre meilleur DJ. Il est là le matin, il est là le soir. Martin underscore M2X. Une chaîne avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup de musique. Martin, merci beaucoup pour le raid. Vous êtes pile poil au début de la matinée, Étienne, parce que ce matin, j'étais sur Europe 1. Hop, ici, pour aller voir mon copain Thomas, invité de son émission Le Club de l'été. Voilà. Et du coup, ben, j'ai décidé de streamer quand même, mais de streamer un peu plus tard, donc vous n'êtes carrément pas en retard. Merci encore Martin. Bon, eh ben on y va. Maintenant, le sommaire sans musique et en développant un peu plus ce qu'on vient de voir. Vous allez voir, ce matin, c'est assez sérieux. Toujours pas de quiz Pokémon, et non, désolé, Malo devait rester une semaine chez Mamie Marie. Et finalement, il s'y plaît tellement que j'ai dû lutter contre l'envie de revoir Malo. Et le laisser là où il est très 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 heureux en ce moment avec Mamie Marie et Tonton Hugo, à parler de Pokémon et de jeux vidéo et de piscine et tout ça. Et donc voilà, on n'a pas de Malo encore cette semaine, il revient la semaine prochaine avec sa chronique Pokémon bien sûr. Alors, on va commencer par le monde comme souvent. Et c'est vrai que ça c'est une actualité qui est passée au second plan hein, ces dernières années. Dans les médias français, je parle de ce qu'on appelait, quand j'étais jeune, le processus de paix israélo-palestinien. On ne parle plus du tout de processus de paix, tant il semble s'éloigner, l'espoir d'une paix un jour entre les deux camps. Mais c'est vrai que ce qui se passe en Israël et dans les territoires palestiniens, c'est très peu présent dans les médias français ces dernières années, comme si on s'était habitué à cette violence ou à cette situation de tension permanente. Et là, eh bien, il y a à Gaza, comme le dit Le Monde, la peur d'une nouvelle escalade. Pourquoi? Parce qu'Israël a lancé vendredi des attaques faisant 11 morts contre le djihad islamique, pas contre le Hamas, contre le djihad islamique qui a riposté dans la nuit. On se penchera sur le bilan humain, sur le pourquoi de ce nouvel accès de violence, ce qu'il veut dire. L'article du Monde est assez clair, donc je vous l'ai mis de côté, même si c'est un sujet qui est ô combien compliqué. Eden Blaster, merci beaucoup pour les 5 abonnements que tu viens d'offrir à la communauté. Lord As You Like, merci pour le 12e mois. Ça aussi, c'est un sujet compliqué, l'expulsion de l'imam Iqwisen, suspendu. Vous avez peut-être suivi ça en fin de semaine dernière. Donc le ministre de l'Intérieur nous explique, Le Monde toujours, a fait appel de la décision du tribunal administratif devant le Conseil d'État. Donc, pour résumer, il y a eu une expulsion qui a été décidée par le ministre de l'Intérieur d'un imam pour diverses raisons, voilà, notamment pour les discours, en raison des discours qu'il tient en France et aussi sur Internet. Et la justice, le tribunal administratif a suspendu cette décision et donc l'imam n'est plus expulsé. Donc là, je ne vous explique pas toute la situation. Maintenant, on est dans le sommaire et on prendra le temps de comprendre ce qui était reproché à cet imam, ce pourquoi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a pris cette décision d'expulsion et ce pourquoi la justice administrative, puisqu'il s'agit du tribunal administratif, a décidé de suspendre cette décision d'expulsion de l'imam. On prendra le temps de comprendre tout ça. Merci beaucoup, El Giganto. Elle arrive, cette émission, elle arrive. Et merci pour le 12e mois d'abonnement. Ouais, et Darmanin reste droit dans ses bottes, comme on disait à une époque, et maintient, et il veut toujours, il veut expulser cet imam. On suivra ce feuilleton. Salut HV du 35, bonne journée. Le Parisien, cette histoire est dingue. Cette histoire est dingue, et puis elle est intéressante parce que c'est la suite d'un fait que vous avez peut-être vu dans l'actu ces derniers mois. Il y a quelques temps, quelques mois de mémoire, il y a une maire, une élue, hein, l'élue de la ville de Canteleu, on est en Normandie, qui a été mise en examen. Pour de mémoire, complicité présumée avec des trafiquants de drogue. L'élu, la maire, c'est une femme d'une petite ville. Et donc, le Parisien a eu accès au dossier. Et alors, le truc est juste surréaliste. Une ville sous influence mafieuse, on parle d'une petite ville, je ne sais plus, de 15 000 habitants en Normandie. Le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de stupéfiants a mis à jour une véritable connexion où toute une famille avait mis sous sa coupe à grand renfort de menaces cette petite cité normande de 15 000 habitants, y compris la maire qui est donc poursuivie pour complicité. L'affaire est dingue. On en est dans la banlieue de Rouen, me dit Jean Chardon. L'affaire est dingue. Moi, j'avais souvenir de cette mise en examen, c'est rarissime, hein, un élu de la République, hein, une maire mise en examen pour complicité de trafic de drogue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et là, on en sait un peu plus. On en sait un peu plus sur ce qui s'est passé. Le Parisien a eu accès au dossier, on va se pencher là-dessus. Quand le c'est l'enfer, me dit Valben 31. Il paraît que dans la région, tout ça se savait, sauf que maintenant ça a été mis au jour par les policiers, par la justice. Donc on va se pencher sur cette histoire qui est un peu incroyable. Le Parisien a bien bossé. Ça, c'est un peu triste. Vous vous rappelez de les plus anciens, là ? Laïka. Laïka, c'était. Comment dire ? C'était une petite chaîne qui avait été envoyée dans l'espace par les Russes du temps de l'URSS. Et puis qui dont on sait qu'elle y était restée, hein, elle n'était pas revenue sur Terre. Exactement, Gandalf, c'est Sputnik 2, exactement. Premier être vivant dans l'espace, Cyril, exactement. Ben, aujourd'hui, en fait, on sait dans quelles conditions cette chaîne est décédée, et ben, c'est pas joli, joli, joli. Voilà. Premier être vivant envoyé dans l'espace, on est en 1957. La petite chienne, un animal errant trouvé dans les rues de Moscou, connut une gloire mondiale, tout le monde connaît ce nom, Laïka, mais aussi une fin terrible. En fait, aujourd'hui, on sait dans quelles conditions est mort cette petite chienne, ce petit chien, et en fait, voilà, c'est super triste, donc ça pose pas mal de questions. Notamment, les scientifiques qui avaient participé à ça regrettent un petit peu les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Voilà. C'est pas très gai, pas très gai. Bon, du coup, on rendra hommage à cette petite chaîne quand même pour qui ça n'a pas été facile, cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que le Parisien commence une série, elle est 1 sur 6, sur les animaux célèbres. Alors, je n'avais pas vu, j'ai le sommaire en bas à gauche, la rendez-vous, donc lundi, Laïka, mardi, Paul le Poulpe, ah, je me rappelle ça, l'oracle de la Coupe du Monde 2010, mercredi, le lion de la MGM, j'avais pas vu le petit sommaire, jeudi, l'ours cannelle et Jacques Chirac, ça c'était pas très gai, je crois. Vendredi, Cher Ami, le pigeon voyageur, star de la Première Guerre mondiale, je ne connais pas. Et samedi, Tilikum, l'orque tueuse. Intéressante cette série. Que Seldor ne soit pas impatient, je vais te dire comment cette petite chienne est morte. C'est pas très cool. Bon, on est dans le sommaire. L'horoscope, c'est pas pour maintenant, c'est pour tout à l'heure. Libération. Là aussi un dossier intéressant sur l'actualité internationale. L'Amérique latine s'ancre à gauche, notamment après ce qui s'est passé en Colombie. La Colombie qui a rejoint hier dimanche les autres pays du sous-continent américain, donc passé à gauche, un club cependant traversé par des courants radicalement opposés. Quel constat fait Libération ? Bah, que la majeure partie des pays de l'Amérique du Sud aujourd'hui sont à gauche, sont gouvernés par la gauche, et on attend en plus une élection bientôt au Brésil où la gauche pourrait revenir au pouvoir avec Lula, en chassant Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite. Donc Libération fait ce constat et puis s'interroge un petit peu, mais quelle est cette gauche qui arrive ou qui revient au pouvoir dans tous ces pays d'Amérique du Sud ? C'est pas tout à fait la même gauche que précédemment. Libération nous analyse tout ça avec beaucoup de subtilité. Je vois que ça vous inspire. Très bien. Ensuite, donc ça c'est le dossier de Libé. Beaucoup d'actualités insolentes, je vous le disais. Alors là aussi, je répète beaucoup sujets compliqués ce matin. C'est vrai que là, on est gâtés. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un rapport de l'ONG Amnesty International sur la guerre en Ukraine. Un rapport qui a fait beaucoup réagir ces dernières heures. Un rapport qui dit que les autorités ukrainiennes ont mis en danger la population civile, la population ukrainienne, dans sa manière de se défendre contre l'agresseur, contre l'armée russe. Alors du coup, c'est un rapport qui est très critiqué par certains, notamment par les Ukrainiens, notamment par le président Zelensky, qui dit « mais vous mélangez tout, vous mélangez l'agresseur et l'agressé, vous n'êtes pas rentré assez finement dans l'analyse de ce conflit, donc il y a un gros débat sur ce rapport. » Là aussi, j'aurais pu le passer à l'as en me disant « oh là là, c'est encore bien compliqué ça », on va essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé autour de ce rapport d'Amnesty International. Mais je vois que vous êtes plutôt content qu'on en parle. Très bien. Voilà le dossier. Bon, ça, on passe du coq à l'âne. Quéquette de sens. Hop. De quoi s'agit-il ? Je vous cache l'article tout de suite parce que c'est le fameux jeu de Libération qui, depuis le début de l'été, publie des anciens portraits de personnalités en enlevant la photo, enlevant le nom. Et il faut deviner. J'ai mis du temps à trouver quelle était la personnalité mystère d'aujourd'hui. C'est pas Francky Vincent. C'est pas parce qu'on parle de Quéquette. Ça n'est pas DSK. Ça n'est pas Pierre Perret. Ça n'est pas Rocco. Non. C'est Quéquette. Il y a plein d'hommes qui ont des Quéquettes. Donc c'est pas forcément facile. J'ai pas trouvé tout de suite, moi. Donc ce sera peut-être le seul moment où on rira un petit peu ce matin, puisque hop, on redevient très sérieux avec le Figaro. Regardez, l'Allemagne se mobilise pour vivre sans gaz russe. C'est vrai que c'est clairement l'Allemagne qui est le pays européen qui va payer le plus lourd tribut à la hausse du prix du gaz et à la diminution des livraisons de gaz par la Russie. Et le Figaro nous explique ça très bien ce matin. L'Allemagne se mobilise pour vivre sans gaz russe. Le Figaro qui s'inquiète pour les conséquences économiques. Donc sur l'économie de l'Allemagne, de cette histoire, parce que quand l'Allemagne tousse, enfin quand l'économie allemande tousse, c'est toute l'économie européenne qui tousse également, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous non plus. Enquête d'eau, encore un petit dossier bien flippant, puisque on est dans une incroyable sécheresse sur quasiment tout le territoire français. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé des mesures vendredi dernier. Du coup, la Croix se penche sur cette sécheresse en nous expliquant qu'il y a des pistes qui existent quand même pour mieux utiliser les ressources disponibles, passage en revue des différentes solutions et de leurs limites. Ce qui est intéressant avec ce dossier de la Croix, c'est pour ça que je voulais sélectionner, c'est que la Croix ne reste pas juste sur le constat « papapap, on n'a plus d'eau », mais dit « il y a quand même des solutions, des nouvelles solutions pour trouver de l'eau à la recherche de nouvelles sources d'eau ». On se penchera là-dessus. Et sur l'autre aspect de cette crise, c'est qu'on peut avoir des solutions pour trouver, de nouvelles solutions pour trouver de l'eau. On peut aussi faire des économies et se montrer plus économe par rapport à la ressource eau. Et là, il y a encore des efforts à faire, des économies qui ne sont pas encore rentrées dans nos habitudes, nous explique la Croix. L'humanité nous parle d'environnement, mais surtout des riches, des responsabilités des plus riches dans le réchauffement de la planète. Milliardaire, c'est criminel, climatique, carrément. Les appels à la sobriété pour tout le monde, dit Luma ce matin, masquent en fait le véritable carnage écologique qu'engendrent les inégalités sociales et l'ultra-concentration des richesses, le carnage écologique des ultra-riches. Le dossier de l'humanité a le mérite d'être extrêmement clair. Je lis ces quelques mots. Dans un monde où la sobriété s'impose aux plus pauvres du fait de la hausse des températures, hein, on a tous compris qu'on allait devoir faire des efforts. Les milliardaires, eux, continuent de polluer sans compter, jets privés, yachts, tourisme spatial. Leurs activités de luxe hypothèquent notre futur. L'humain nous dit quoi ce matin ? Disons, avant de demander à tout le monde des efforts, là, hein, de couper le Wi-Fi, le Dieu sait quoi, il faudrait d'abord s'intéresser à ceux qui polluent le plus. Et pour l'humain, eh bien, le coupable est tout trouvé. Ce sont les plus riches, notamment les milliardaires. On se penchera notamment sur ces applis qui suivent les déplacements des jets privés. Oh, c'est trop gentil. Merci Citron Violet, c'est trop gentil. Ça, c'est un raid qui me fait plaisir aussi, comme celui de Martin Martin tout à l'heure. Merci beaucoup. On se penchera aussi sur ces applis qui suivent les déplacements au jet privé des milliardaires. Là, on se voit qu'effectivement, c'est assez incroyable. Merci beaucoup. Citron Violet, oh, je vois un joli émote là. De Citron Violet, d'ailleurs. Citron Violet pour ceux... Oh, merci. Citron Violet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne super sympa d'un Français vivant au Japon, actuellement enseignant. Si ma mémoire est bonne, alors que c'est pas ton métier d'origine, mais qui profite justement de ce séjour au Japon pour faire découvrir le Japon à ta communauté, et c'est super sympa. Il y a plein de streams IRL qui sont très très cool. Merci Citron Violet pour ce raid. Citron Violet qui utilise les transports en commun, il a vendu son jet privé. Vous étiez en stream IRL ce matin chez Citron Violet. Vous avez fait quoi? Racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Donnez-nous envie. Osaka? On dit Osaka ou Osaka d'ailleurs, je ne sais jamais. Je sais pas si... On dit Osaka, voilà, je savais bien que je prononçais mal. Ok. Ah, oh, trop bien, trop bien. Une semaine sur la préfecture d'Osaka. Trop bien. Oh là là. Osaka comme Moussaka. Merci Dounis. Grâce à toi, je m'en souviendrai. On a visité la villa de Samuel à Osaka. Oh, j'aimerais tellement. Merci en tout cas pour ce raid, c'est super sympa. On est en plein sommaire, donc vous n'êtes pas en retard. On est au tout début, je vous montre juste les articles dont on va parler ce matin. Et puis on finira avec le quotidien sportif L'Équipe, qui revient sur la première journée de Ligue 1 qui avait lieu ce week-end. Donc ça a commencé par le festival du PSG face à Clermont. Non, c'était Lyon. Le premier match, c'était Lyon vendredi, qui a gagné contre Ajaccio. Je crois que c'est ça. Après, il y a eu le 5-0 à l'extérieur de Paris sur la pelouse de Clermont, avec de belles choses du côté de Neymar et de Messi, puisque Mbappé était absent. Et puis, l'autre match marquant de cette première journée, on va dire que c'est Marseille quand même, hein, qui a battu Reims 4-1. Donc, on se penchera sur cette première journée. Hop, on verra tous les résultats et le classement. Voilà, qui me donne une petite idée au tout début de la forme que pourrait prendre cette nouvelle saison de Ligue 1. Voilà, bon, on finira avec ça. C'est pas mal ce matin. Vous avez vu, c'est sérieux ce matin. Oh là 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 là. C'est sérieux chez sérieux. Voilà. Ben, j'aime bien aussi vous trouver des articles un petit peu souriants ou un peu sur des faits de société, un peu cool, un peu chill pour s'aérer un peu la tête. Là, on est sur du sérieux. Je vous lis un petit peu et on démarre. J'adore parce que vous débattez vous-même ensemble dans le chat d'actualité. Parfois, je ne comprends rien. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Merci Amélie Flash pour le 11e mois d'abonnement. Oh, parti pour un voyage au long cours. Tu vas être mon lien avec l'info française. Oh oui. Ok, bah, je vais m'appliquer. Ça me fait bien plaisir. Vous êtes prêts? On lit tout ça tranquillement? Samuel, j'ai faim, mais j'ai plus rien. Lost in Translation, j'ai plus rien. On regarde Lost in Translation, qui nous regarde du Japon aussi, je crois. C'est fou. Dans le chat, certains rêvent d'aller au Japon, certains y sont. Parlez-vous. Au fait, c'est quand la rencontre Étienne avec Anne-Sophie Lapix? Le peuple veut savoir, me demande Meltox 9. Anne-Sophie m'a dit qu'elle était OK pour venir, et puis finalement, elle a moins envie. C'est pas par rapport à moi ou par rapport à vous ou par rapport à Twitch, c'est que voilà, en ce moment elle a pas trop envie de parler de son travail, je crois. Je vais relancer l'invitation à la rentrée. Voilà, rien de spécial, c'est juste que là, à l'instant T, en tout cas avant la fin de l'été, avant le début de l'été, elle avait pas trop envie de parler, mais le breton est têtu, donc je vais relancer cette invitation, bien sûr. On regarde depuis l'Australie, c'est le kiff. On y va? On lit tout ça? Allez, on commence avec le monde comme d'habitude. Voilà. Énergie, un plan en trois seuils pour passer l'hiver. Bon, c'est des trucs qu'on a déjà abordés. Donc, je ne vous ai pas mis ce dossier de côté, donc je vous ai mis celui-ci parce que je trouve qu'on ne parle pas assez du Proche-Orient dans les médias français ces dernières années. Je me rappelle d'une époque, vous n'étiez pas né, où cette actualité, celle du Proche-Orient, ce qu'on appelait à l'époque le processus de paix au Proche-Orient, on ne parle plus tout de processus de paix tellement l'espoir de paix est loin. On en parlait quasiment tous les jours. Et puis ça a disparu, en fait, tout simplement parce qu'on s'est peut-être, hélas, habitué à la situation. À Gaza, la peur d'une nouvelle escalade. Pourquoi Le Monde en parle? C'est son premier article, hein, c'est page 2. Ouais, c'est ça, dans sa dernière édition, parce que Israël a lancé des attaques. C'était vendredi, faisant au moins 11 morts contre le djihad islamique. Le djihad islamique qui est avec le Hamas, l'une des deux formations qui tient la bande de Gaza. Le djihad islamique qui a riposté dans la nuit. Je vous donne les faits et puis on en parle un petit peu ensemble. Je vous avoue que je vois des questions par exemple, mais il y a Khaled du 13 qui dit « J'avoue, je ne comprends rien sur Gaza, pourquoi ils se battent ?» On pourrait y passer des heures. Allons-y. Une fois encore, Gaza, c'est un papier du correspondant à Jérusalem, du monde, paraît sur le point de basculer dans la guerre, une fois de plus. Et, comme à chaque fois en coulisses, les médiations égyptiennes et qataries, épaulées par les Nations Unies, s'activent pour éviter le pire. Vendredi, donc les faits. En milieu d'après-midi, l'armée israélienne a attaqué l'enclave, visant notamment un immeuble d'un quartier résidentiel en plein centre de la ville de Gaza. Ces frappes, suivies d'autres salves quelques heures plus tard, puis de bombardements dans la nuit, ont tué Taysir al-Jabari, commandant des brigades Al-Quds, qui est la branche armée du djihad islamique, le mouvement qui, je vous le disais, avec le Hamas, contrôle la bande de Gaza. D'autres militants de l'organisation proche de l'Iran auraient également été tués, mais aussi des civils, dont une fillette de 5 ans. Le ministère palestinien de la Santé a rapporté donc samedi, au lendemain de l'attaque, 11 morts et plus de 80 blessés. L'armée israélienne annonce avoir détruit, elle, des ateliers de fabrication d'armes, des rampes de lancement de roquettes et des points d'observation du djihad islamique. L'État hébreu dit avoir agi pour prévenir une attaque lancée par l'organisation islamiste. La riposte, elle, en tout cas, n'a pas tardé. À partir de 21h vendredi soir, le djihad islamique a tiré plus de 160 roquettes vers Israël sans faire de blessés ni de victimes. Les quelques 2,3 millions de Gazaouis, les habitants de Gaza, privés d'électricité dans la chaleur humide de l'été, ont passé, eux, la nuit terrés dans des immeubles surpeuplés, se préparant au pire. Encore traumatisés par l'intensité des bombardements lors de la précédente guerre en mai 2021, qui a fait 260 morts côté palestinien et 13 victimes côté israélien, les Palestiniens n'ont nulle part où se réfugier dans l'enclave qui étouffe sous blocus israélo-égyptien depuis plus de 15 ans. Ah, pourquoi ça s'est déconnecté, ça, l'article? Voilà, excusez-moi. Voilà. Il ne peut y avoir de justification à des attaques contre des civils, a mis en garde le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient. Alors, pourquoi cette offensive israélienne? On va se poser la question dans un instant. Je vous lis un petit peu. Vous êtes plusieurs à me dire qu'il y a un cessez-le-feu, en fait, qui a été signé. A priori, hier soir, info qu'il n'y avait pas dans le monde. Ouais, il y a une petite trêve. Voilà. Allons voir France Info. Hop, vous avez raison. Donc, le djihad islamique évoque un accord pour une trêve avec Israël. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qui n'a pas encore été confirmé officiellement par Jérusalem. Donc, on attend une confirmation de l'État hébreu. Oh la vache. Par contre, le bilan s'est alourdi. Toujours selon le ministère de la Santé à Gaza, il y a 4 enfants palestiniens qui ont été tués dimanche. Et donc, ce qui porterait le nombre de morts des frappes israéliennes à 41 Palestiniens, dont 15 enfants depuis vendredi. Donc, le bilan est beaucoup plus lourd que celui évoqué dans Le Monde. Ok. Revenons à l'article, du coup. Mais effectivement, il semblerait qu'il y ait un espoir de trêve. Alors pourquoi cette attaque, pourquoi cette offensive donc de l'armée israélienne? Le Monde explique, l'offensive du 5 août pourrait avoir été Donc, la thèse officielle, c'est donc pour prévenir quels sont les maux de l'État hébreu. Je reviens un peu plus tôt. Soyons précis. Donc, une attaque préventive pour empêcher une attaque lancée par l'organisation islamiste, donc le djihad islamique. Le monde se demande s'il n'y a pas quand même quelques arrière-pensées politiques. L'offensive du 5 août pourrait aussi avoir été précipitée par des visées électoralistes pour montrer aux habitants des localités israéliennes autour de Gaza qu'ils jouent la force face aux menaces du djihad islamique. Puisque vous savez qu'il y a une crise politique en Israël actuellement, le gouvernement risque vite de se retrouver toutefois à bout de souffle dans une énième confrontation dans l'enclave sans porte de sortie véritable, estime le journal. Depuis le retrait des Israéliens de cette étroite bande de guerre, de terre, pardon, lapsus intéressant, sous l'égide du Premier ministre Ariel Sharon en 2005, l'État hébreu n'a formulé aucune solution politique durable à la question de Gaza. Il se contente de contenir le conflit, parfois avec une très grande brutalité, comme lors des guerres de 2008, 2012, 2014, ou dans la répression sanglante des marches du retour, hein, ces manifestations largement pacifiques de Palestiniens en 2018-2019, contre le blocus et pour le droit au retour des réfugiés qui ont fui ou ont été chassés du pays lors de la création de l'État d'Israël. En coulisses, ça veut dire aussi négocier, notamment avec le Hamas, grâce à des intermédiaires, et irriguer parfois l'enclave, la bande de Gaza, en argent par l'intermédiaire du Qatar pour tenter d'apaiser les tensions. Voilà pour les faits, l'actualité rapportée par Le Monde. Et vous, je vous lis, vous en pensez quoi? Alors le problème de l'attaque préventive, effectivement, c'est que ouais, il faut en quelque sorte faire confiance ou pas à Israël dans pour cet argument, puisque c'est frappé avant que les autres frappent, bien sûr. Alors, ce n'est pas ce matin qu'on va évidemment résumer toute la complexité du conflit israélo-palestinien qui remonte à la création de l'État d'Israël après la Seconde Guerre mondiale. Comme le dit 47 Alexia, terrible de voir qu'on s'est habitué aux nouvelles tragiques de ce conflit. Et du coup, ben, je trouve ça bien que Le Monde en parle en sa une et dès sa deuxième page ce matin, justement pour éviter qu'on s'habitue à ça. Ça mériterait un stream entier, ça, avec des invités, la question israélo-palestinienne. Je vous lis. Ce que moi, j'aimerais beaucoup trouver dans les jours à venir un article de fond, pourquoi pas dans Le Monde, qui reviendrait un petit peu sur les racines de cette crise. Et je suis sûr qu'un journal comme Le Monde peut nous le proposer dans les prochains jours. Et ce serait bien de pouvoir le lire ensemble pour essayer de comprendre pourquoi on en est encore là, toujours là, et de revenir un petit peu sur l'histoire de la création de l'État d'Israël. Et ce qui s'est passé avec les Palestiniens et avec tous les voisins, tous les pays arabes. Ce serait bien, puisque là, on a évidemment juste un article factuel sur ce qui s'est passé depuis vendredi, mais évidemment, l'article n'est pas assez long pour revenir sur les racines de ce conflit. Je vais essayer de vous trouver ça dans les prochains jours, promis, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Je remercie Badak NCX pour le Prime, Chuck NT pour le troisième mois d'abonnement, un petit coucou du Portugal, Amélie Flash, j'espère que tu vas bien. Et remercie pour le petit message. Donc, on va essayer de faire ça. Je suis sûr que le Monde ou un autre journal va nous faire ça. Il y a Le Liange qui nous signale un dossier du Figaro qui date du 22 avril, qui revient aux origines justement du conflit. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que si demain, par exemple, ou après-demain, je ne trouve pas cet article dans la presse du jour, j'irai vous le chercher, par exemple dans le Figaro, j'essaierai de vous trouver un article qui revient un petit peu sur les racines de ce conflit, sachant que la question de travail à la maison dans le chat, c'est qu'il est gentil, Israël ou Palestine, n'appelle aucune réponse simple pour m'être un petit peu rendu dans la région, puisque quand j'étais jeune journaliste, moi qui parlais du Proche-Orient quotidiennement dans mes journaux, un jour j'ai voulu aller voir sur place et j'ai passé quelque temps en Israël et dans les territoires palestiniens, rejoignant notamment des journalistes français qui étaient correspondants là-bas, Xavier Yvon qui travaillait pour Europe 1, ou un copain qui s'appelait Renaud Duménil, qui travaillait notamment pour les chaînes francophones et qui était basé en Israël. Et donc j'ai passé du temps là-bas, de chaque côté, pour essayer de comprendre et de mettre un peu de sens sur ces mots que je disais au quotidien dans les JT sur... Et c'est sur place que j'ai compris qu'il y avait, en écoutant les Israéliens et les Palestiniens, qu'il y avait, si on s'en tient au peuple en tout cas, pas de méchants et de gentils, mais deux parties souvent persuadées d'avoir raison contre l'autre, et un sujet extrêmement complexe avec de chaque côté une certaine légitimité dans le combat, le droit par exemple d'Israël à exister dans la paix, sans la menace de conflit, puisqu'on va rappeler que plusieurs pays arabes ont déclaré la guerre à l'État d'Israël après sa création. On ne va pas y revenir maintenant, ça va être trop long. Menaçant l'existence même de l'État d'Israël. Et puis après, ce que l'État d'Israël a fait avec les Palestiniens. Donc c'est très, très, très compliqué. Je vais essayer de vous trouver quand même un article qui pourrait nous simplifier, nous résumer un petit peu ça pour pouvoir en parler ensemble. Miou Chocan, merci pour le prime. Allez, promis, on y reviendra dans les prochains jours. Bon, ça, c'est un peu plus simple. L'histoire de l'expulsion de l'imam Iqouissen de France, souhaitée par le gouvernement, par le ministère de l'Intérieur, et qui finalement ne s'est pas faite, cette expulsion, puisqu'elle a été suspendue par la justice française, par un tribunal administratif, Gérald Darmanin, qui a fait appel de cette décision du tribunal administratif devant le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative, si je ne dis pas de bêtises, donc cette histoire n'est pas terminée. De qui parlons-nous ? D'Hassan Iqouissen, donc l'imam en question, qui reste en France, du moins pour le moment, l'histoire n'est pas terminée, on est toujours dans le monde. Saisi en référé, le tribunal administratif a suspendu vendredi son expulsion ordonnée par qui ? Par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que vous voyez ici au premier plan, aux côtés du garde des Sceaux, la justice considérant que cette expulsion porterait, je cite, une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l'imam conférencier du nord de la France. Darmanin a immédiatement fait appel devant le Conseil d'État, bien décidé, je cite, à lutter contre ceux qui tiennent et diffusent des propos de nature antisémite et contraires à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il avait signé la semaine auparavant un arrêté ministériel d'expulsion, donc c'est vraiment une initiative du ministre, reprochant au prédicateur, à l'imam, des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes. En cause, énumère l'arrêté, puisque tout ça a été assez explicité, un discours prosélyte porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République, un discours à teneur antisémite particulièrement virulent, prônant la soumission des femmes au profit des hommes, encourageant le séparatisme et le mépris de la laïcité. Ça, c'était les motivations de l'arrêté. Décision totalement disproportionnée, contestée par Maître Simon, qui, vous l'avez compris, est l'avocat de l'imam, qui a rapidement déposé un recours devant le tribunal administratif. Deux portraits de l'imam, d'Hassan Iqouissen, ont été dressés devant le tribunal. Le premier brossé par son avocate, qui dépeint un défenseur de l'islam du juste milieu, certes, dit l'avocate, pas le plus progressiste, notamment sur l'égalité femmes-hommes, mais qui ne présente pas une menace d'une telle gravité, d'une telle actualité, qu'il faille absolument l'expulser là, maintenant, tout de suite, de France, alors qu'il a passé sa vie dans notre pays. L'autre portrait, dressé cette fois par Pascale Léglise, qui est la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, qui décrit un prédicateur religieux, qui tient un double discours, comme le font souvent les mouvements fréristes, ce sont ces termes, mais qui incite clairement au séparatisme, au non-respect de l'égalité homme-femme, au fait que la charia doit être placée au-dessus des règles de la République. La représentante du ministère de l'Intérieur, qui a rappelé les propos antisémites tenus par Hassan Iqouissen en 2003 lors d'une conférence sur la Palestine, il s'est excusé depuis, se disant anti-sioniste mais pas anti-sémite, je pense que vous connaissez la nuance, avant de se lancer dans une longue liste de citations de ses discours rétrogrades sur les femmes, stigmatisant les juifs, plaçant la charia au-dessus des principes de la République, accordant son soutien à Ben Laden, victimisant la communauté musulmane. Des prêches d'autant plus graves qu'il a un auditoire très important, comptant plus de 170 000 abonnés sur YouTube et près de 45 000 sur Facebook, auprès duquel il distille ses préceptes qui constituent, estimait le gouvernement, en tout cas sa représentante, des préceptes constituant le réseau d'action terroriste. Un peu plus tôt, l'avocate de la Ligue des droits de l'homme, venue en soutien à l'avocate de l'imam, s'inquiétait d'un arrêté constituant une décision d'opportunité du ministre de l'Intérieur dans le but de promouvoir un projet de loi et la libéralisation du recours aux expulsions. « Vous n'êtes pas la caution judiciaire des effets d'annonce du ministre », avait conclu l'avocate de l'imam en demandant au tribunal de dépasser le temps médiatique et de donner le temps à la justice d'approfondir le cas de son client avant de décider ou non de l'expulser. Le tribunal administratif a donc accordé un répit. Dans sa décision que Le Monde a pu consulter, le juge des référés affirme que le seul motif tiré de l'existence d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination à l'égard des femmes ne peut justifier la mesure d'expulsion sans porter une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. L'imam de 58 ans, né dans le nord de la France, père de 5 enfants français, grand-père de 15 petits-enfants français, marié à une Marocaine en situation régulière, a toujours vécu sur le sol français avec un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au dernier qui expirait le 3 juin. Le tribunal administratif estime qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait réitéré des propos antisémites postérieurs à 2014. Il ajoute que le ministre de l'Intérieur n'a pas étayé avec des pièces que l'imam aurait émis une forte hostilité à l'égard des valeurs constitutives des sociétés occidentales, encouragé au séparatisme, affiché son mépris de certaines valeurs républicaines au-dessus desquelles il place la charia. Donc, ce que reproche notamment le tribunal à l'État, c'est qu'il n'a pas prouvé par des pièces, par des documents, une partie de ses accusations. Le ministre de l'Intérieur n'établit pas davantage que M. Iqiyoussen aurait apporté un soutien public à Oussama Ben Laden, donc des accusations et pas de preuves, ou que ces discours de victimisation de la communauté musulmane par des non-musulmans auraient été accompagnés d'une provocation explicite et délibérée à la haine et à la violence, souligne le juge des référés. Voilà. Qu'est-ce que dit le juge ? Le dit le juge, peut-être que cet imam s'est rendu coupable de tout ce que vous dites, mais vous n'en apportez pas la preuve, en tout cas pas sur tout, que sur, par exemple, la question de l'égalité homme-femme, effectivement, là, il y a des éléments très clair sur ce type de discours rétrograde, mais là encore, la justice dit, est-ce que ça mérite une expulsion là, maintenant, tout de suite, en urgence, au vu, par ailleurs, des responsabilités familiales que cet imam a sur le sol français avec ses enfants et ses petits-enfants français ? La justice a dit, le cas d'urgence n'est pas constitué, donc prenons le temps. Voilà. Encore un sujet bien complexe. Je vous lis. Facile. Hein. Je trouve que ce qu'on dit la marmotte insomniaque est intéressant. La marmotte qui dit c'est assurément un personnage détestable. On est d'accord que bon, toujours les discours qu'on évoque là sont pas acceptables au sein de la République. Cependant, le ministre de l'Intérieur a fait usage disproportionné de la mesure d'expulsion. Le tribunal administratif a tenu compte de la situation de l'intéressé. Il revient de suivre la procédure de manière posée sans se précipiter. Voilà. Je pense que ça résume bien la position de la justice dans cette histoire. C'est glissant les sujets d'aujourd'hui. C'est vrai que Pasquetal, aujourd'hui on est servi. On est servi, c'est que des sujets clivants et compliqués. Harmonie, il n'a rien à voir avec un musulman, ce monsieur. Dans le Coran, les musulmans respectent et privilégient la paix et la parole avec les gens du livre et reconnaissent les autres religions. Il y a la religion et puis il y a la lecture que certains en font des religions, mais ça, toutes les religions l'ont connu, bien sûr. Hélas. Karok, il a peut-être passé sa vie en France, mais il n'en a vraisemblablement pas la mentalité. Dehors, ses prédicateurs, rien à faire sur le territoire. SM2 88 écrit: Coucou Samuel, je trouve ça bien de parler de sujets comme ça parce que d'habitude personne n'ose en parler. C'est ce que je vous dis. Et moi, je vous remercie parce que vous n'êtes pas d'accord entre vous. Hein. Certains disent il faudrait l'expulser tout de suite. D'autres disent attention, c'est le temps de la justice est parfois un temps un peu lent. Il faut faire les choses correctement. On est justement dans un état de droit. Vous n'êtes pas d'accord avec vous, mais vous arrivez à en parler ensemble. Moi, c'est le pareil que je fais depuis le début de cette chaîne. On peut parler de tout et ne pas être d'accord ensemble et se le dire parfois avec vigueur, mais aussi avec respect. Et ça, c'est grâce à vous, c'est pas grâce à moi. Donc moi, je pense qu'on peut parler de tout, effectivement, y compris de ces sujets tendus. Vous êtes plusieurs à me dire que la France lui a proposé à sa majorité d'avoir la nationalité française et qu'il l'aurait refusée. Ça me semble crédible, cette information, puisque il est né en France. Je suppose que malgré ça, il n'a pas la nationalité française, puisque je vois qu'il a un titre de séjour régulièrement renouvelé, alors qu'il est né sur le sol français. Donc, c'est peut-être sans doute vrai cette histoire. On va continuer à suivre cette histoire, puisque ça n'est pas terminé, vous l'avez compris. Le pain au chocolatine, merci pour le 6e mois d'abonnement. Tonton Zilane, je t'ai vu, merci pour le 4e mois. Goldorago, merci pour ce 10e mois et pour le petit message aussi. Merci à tous les trois, vous êtes super cool. On continue. Est-ce qu'on va sur des choses plus légères? Pas du tout, pas du tout. Mais alors ça, c'est une histoire qui est incroyable. Voilà, une petite commune normande, une petite ville de 15 000 habitants sous la coupe de trafiquants de drogue. Alors, on pourrait penser, c'est vraiment le scénario, là, une espèce de film, d'un polar. Imaginez, hein, une petite ville de 15 000 habitants françaises en Normandie sous la coupe d'une famille de trafiquants de drogue. C'est un scénario, c'est un polar. Ben non, ça se passe chez nous, ça se passe en France, ça se passe maintenant. C'est sûr, cette fois, il y avait des soupçons, mais là, il y a eu un coup de filet policier, et puis il y a un procès qui aura lieu qui nous le confirme. Qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé par la mise en examen de la maire, de l'élu, de la maire de la petite ville il y a quelques temps. Et là, c'est la suite de l'histoire. Le Parisien en sait un peu plus. C'est juste surréaliste. Canteleu, je ne sais pas s'il y a des habitants de Canteleu, on est près de Rouen, je crois. Ville sous influence mafieuse. Alors, ça peut sembler exagéré, mais ça n'est pas exagéré quand on lit le dossier. Le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de stupéfiants a mis au jour une véritable connexion où toute une famille avait mis sous sa coupe, à grand renfort de menaces, cette petite cité normande de 15 000 habitants, y compris la mère qui est mise en examen, qui est poursuivie pour complicité. C'est totalement fou. Dérive mafieuse, on va lire l'édito de Damien Delceni, puis après on lira l'article. On va prendre le temps parce que les infos sont incroyables. Un élu de la République mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. Rarissime, on a envie de dire, heureusement. Surtout quand cet élu est la maire de Canteleu, petite ville normande, sur les hauteurs de Rouen, en apparence bien loin des capitales françaises du trafic de stup, Marseille ou en région parisienne, c'est oublier que la drogue et son business juteux ruissellent désormais. C'est un ruissellement, mais c'est pas celui qu'on évoque d'habitude, ruisselle désormais jusque dans les villes moyennes et les campagnes. C'est oublier aussi que les millions d'euros générés par ces trafics offrent un sentiment de toute puissance à ces organisateurs. À Canteleu, les frères Méziani, c'est le nom de cette famille, ont longtemps fait la loi, inspirant la peur à leurs concurrents, mais aussi aux commerçants, mais aussi aux chefs d'entreprise, aux élus locaux prêts à prier à renfort de menaces d'être leurs vassaux. Fermer les yeux, rendre des petits services, et les Méziani promettaient la paix sociale. Hein. En démantelant la Canteleu Connection, les enquêteurs n'ont pas seulement mis au jour une énième multinationale du stup. Au cours d'une enquête de 2 ans, l'enquête a duré 2 ans, ils ont levé le voile sur ces dérives mafieuses quand le monde de l'illégalité fait plier celui de la légalité et dicte ses codes. Vous avez une ville en France, une ville de la République française, où en quelque sorte la loi ne s'appliquait pas, et où les lois de la République avaient été remplacées par les lois du deal, c'est surréaliste. Mais cette affaire doit alerter sur la solitude également et l'impuissance des élus face à la criminalité organisée et démontre qu'une ville calme peut cacher une gangrène puante. La question, une des questions qui se posent bien sûr dans cette histoire, c'est de quoi s'est rendu coupable l'élu, la maire? Est-ce que c'est une complicité active? Est-ce qu'elle a retiré un intérêt politique, financier à ça? Ou est-ce qu'elle a juste agi sous l'effet de la peur? Enfin, c'est vraiment la question centrale qui se posera dans ce procès. Autopsie, lisons l'article maintenant, d'une ville sous l'emprise des dealers. La police a enquêté 2 ans sur un vaste trafic de drogue ayant généré plus de 100 millions d'euros de bénéfices. Hein, les enquêteurs estiment que ce trafic a généré en l'espace de 10 ans 100 millions d'euros de bénéfices, donc ça donne des moyens pour faire pression sur les uns sur les autres. La fratrie, à la tête du réseau, avait fait des élus locaux, ses obligés. Depuis des années, les Mesiani ont mis le secteur en coupe aussi réglée que celle des centaines de kilos de drogue écoulés par leurs soins. En octobre, la justice, parce que ça c'est terminé a priori, hein, en tout cas pour ce trafic-là, est venue stopper cette mécanique bien huilée, l'interpellation de 19 personnes a décapité provisoirement ce petit empire provincial du stup. Pendant près de 2 ans, la minutieuse enquête pilotée par la Sûreté départementale de Seine-Maritime et la police judiciaire de Seine-Saint-Denis n'a rien raté de son quotidien. La sonorisation de la voiture et de l'appartement de 2 des principaux lieutenants du clan, donc les policiers avaient posé des micros, a éclairé les arcanes de son business, donc ils ont écouté pendant 2 ans avant de serrer tout le monde, a éclairé les arcanes de son business et montré la profondeur de son enracinement dans la vie politique locale. C'est ce qu'illustre la mise en examen, c'est là où c'est fou. Le 22 avril 2022, je me rappelle vous en avoir parlé rapidement, en attendant d'en savoir plus, c'est aujourd'hui qu'on en sait plus, de la maire PS de Canteleu, Mélanie Boulanger, pour complicité de trafic de stupéfiants, ainsi, c'est pas tout, que celle de son adjoint au commerce, Asbi Kolak, dossier judiciaire vertigineux auquel nous avons eu l'accès. Voilà pourquoi le Parisien en parle, c'est parce qu'ils ont eu accès au dossier. Alors, les faits. Chaque mois, le réseau importait en moyenne 20 kilos d'héroïne, 10 000 euros le kilo, et 5 kilos de cocaïne à 30 000 euros le kilo. Les policiers ne prennent même pas la peine de détailler dans leur PV les tonnes de cannabis importées, des miettes qui ne semblent avoir d'autre utilité que de permettre d'investir dans la blanche. Une fois la coupe effectuée, les Mesiani produisent à l'année plus de 10 millions d'euros de bénéfices. En partant du principe qu'ils opèrent depuis à peu près 10 ans, le bénéfice généré sur cette période dépasserait donc les 100 millions d'euros. Officiellement, les frères de la famille, là, comment s'appelle-t-elle, Mesiani, ne sont que des modestes salariés d'une entreprise d'un proche, qui est en fait une coquille vide, il n'y a rien derrière. Ils savent que la meilleure des précautions est de ne pas avoir de biens à leur nom, en tout cas sur le sol français. Ils n'ont quasiment pas de biens en France. Grâce à un financier occulte, la fratrie change les euros de la drogue en dirhams marocains qu'elle récupère dans son pays d'origine. Et là, elle investit dans de luxueuses villas. L'argent était essentiellement placé au Maroc. À Canteleu plus qu'ailleurs, elle est aussi une véritable pieuvre. Les frères y ont pris des parts dans des commerces de la ville, des commerces de proximité. Régulièrement, ils tentent de mettre la main sur des sociétés pouvant intéresser leur commerce, sociétés d'import-export par exemple, hein, toujours pour avoir des façades légales. Le 8 octobre 2021, le coup de filet, 20 personnes arrêtées. Les enquêteurs mettent la main sur 348 050 euros, soyons précis en cash, 598 000 euros sur les comptes bancaires, 12 kilos d'héroïne, 76 kilos de produits de coupe, 200 grammes de cocaïne, ainsi que 10 armes de guerre, dont des pistolets automatiques. Arsenal qui permet de mieux apprécier les craintes des chefs d'entreprise, par exemple, qui étaient ciblés par les pressions. Je ne savais plus comment me défaire d'eux, confiera un chef d'entreprise aux enquêteurs, par exemple. J'avais peur pour moi et ma gamine de 20 ans. Un autre chef d'entreprise témoigne aussi. Lui aussi a senti cette pression. Le bar, le Jaurès, situé à 2 pas de la mairie, fait faillite en 2016. Un repreneur flaire la bonne affaire, il veut acheter, et puis on lui fait comprendre que les Mesiani sont sur le coup, donc il abandonne. Février 2020, le fameux Jaurès, le café, fait l'objet d'un contrôle de police. Les Mesiani voient rouge. Comme à chaque fois en pareil cas, il se tourne vers la mairie, vers Asbi Kolak, hein, l'adjoint. Au fil des années, l'élu est devenu leur courroie de transmission avec Madame la maire. Aucun acte positif de ces deux élus n'a favorisé le trafic, défend l'un de leurs avocats. Il marchait sur un fil face à la pression d'individus qui n'ont pas la réputation d'être tendres. Selon l'avocat, son client, on parle de l'adjoint au maire, n'a pas retiré de bénéfice de ses contacts avec la famille Meziani, ni bénéfice financier, ni bénéfice politique. Le 14 février 2020, si l'adjoint Hasbi Kolak appelle Madame la maire, ce n'est pas pour lui souhaiter la Saint-Valentin, mais plutôt pour lui faire part de la colère des grands, autre appellation des Meziani, et ce jour-là, les grands ne sont pas contents. Ils rappellent à la maire que les vrais patrons de la ville, ce sont eux. Le clan manie aussi bien la carotte que le bâton. Si la maire fait ce qu'il faut, eh ben elle sera réélue, encouragent les Meziani. À défaut, préviennent-ils, 1000 litres d'essence feront partir en fumée les bâtiments municipaux. Mélanie Boulanger préfère anticiper l'incendie. Elle contacte le commissaire pour lui demander des comptes et prouver ainsi son allégeance aux trafiquants. L'histoire est complètement dingue. Des messages de la maire exhumés par les enquêteurs sont accablants. J'ai mis un SMS au commissaire. Rassure la maire à son adjoint. J'ai écrit les jeunes pour qu'ils n'identifient pas que je parle aux grands. Des grands. Elle leur avait déjà montré à ces trafiquants de drogue sa soumission, écrit le Parisien. En décembre de l'année précédente, les Meziani avaient refusé net l'installation de caméras de surveillance sur un point de deal dans le secteur de l'îlot Dumas. Une première fois, les installateurs sont agressés. Aussi sec, les frères revendiquent l'attaque auprès de la mairie et de la maire. Ils s'indignent notamment de ne pas avoir été prévenus du projet. L'adjoint téléphone à la maire en présence des frères. « Tu ne peux pas m'appeler avec les loustiques autour », s'étrangle peu après Mélanie Boulanger par SMS, qui tente de justifier l'installation de Guerlas. Elle lui rétorque de faire savoir aux Meziani que leurs troupes n'ont qu'à bouger un peu pour aller trafiquer un petit peu plus loin et ne pas être dans le champ des caméras, ce qu'ils feront. Alors, elle se défend. Alors, c'est Madame Boulanger que vous voyez en haut à gauche, là. Hop. Elle se défend et elle dit « Mon histoire est celle d'une élue de la République qui, comme tant d'autres, depuis de très trop nombreuses années, se retrouve seule et sans réponse. » Lorsqu'il sollicite les pouvoirs publics pour les aider à lutter contre la délinquance et les trafics de stupéfiants. C'est une déclaration qu'elle a eue devant le juge d'instruction. À propos des Meziani et des trafiquants de drogue, l'édile, l'élu, insiste, « Je n'ai pas de lien, je n'ai aucun lien avec ces gens-là », c'est ce qu'elle dit, « Je n'ai partagé aucun repas avec eux, aucun avantage, aucune contribution, aucune confidence, aucun intérêt. » Entendu en garde à vue, l'adjoint au maire, lui, Hasbi Kolak, confirme « Oui, les commerçants ont peur des Meziani. Oui, il a un peu joué le rôle de tampon entre la mairie et la cité. Je me suis résigné, dit-il. Je ne dirai pas que je suis aux ordres de leur... que je leur rends service. Peut-être qu'il existe une emprise, mais pour moi, c'est naturel, c'est mon quotidien, c'est cantonneux, je suis un facilitateur. » Quoi. Folie. Folie. Histoire de fou. Là, vous avez les deux protagonistes, les deux élus. Voilà. Je vous lis un petit peu là-dessus. Nita 65, j'ai pas la réponse, mais je peux imaginer. Petite question à la marge, ça veut dire quoi en clair? Nous avons eu accès au dossier. Ça veut dire qu'ils ont volé, acheté, espionné ou quelqu'un ou l'institution a décidé de leur donner. Quand des journalistes disent qu'ils ont eu accès au dossier, c'est que la justice. Pourquoi mon truc s'éteint là? C'est fou ça. J'ai changé un truc dans mon setup là. Mais on a perdu l'article. Mais pourquoi? Oh, ça c'est... J'ai tout réglé bien, et ça marche plus là. Pourquoi? Bon, je vais relancer la petite appli. Ah oui, c'est l'appli qui a bugué. C'est rien du tout ça. Donc là, c'est tout simplement c'est quelqu'un au sein de la justice française qui donne accès, qui fait fuiter le dossier, quoi. Je pense qu'on peut dire ça comme ça sans trop d'erreurs. Attendez, je recharge juste la page, là. On est peut-être resté trop longtemps sur le... Comment ça, aucun signal. Voilà, je pense que vous devriez le récupérer, là. Voilà. Je vous lis un petit peu. Elle est terrible, cette histoire. Bah oui, Manur... Bah oui, bah oui, bah oui. Il y a un film à faire, là. Lost in Translation, un petit peu pessimiste. De toute façon, ça va se finir comme toujours. 6 mois de prison pour chacun et hop, dehors. Comment ils ont pu démanteler ça? Ben, ils ont écouté pendant 2 ans. Ils ont écouté patiemment tous les messages, les échanges, les trucs. Ils ont lu les SMS et puis ils ont compris comment le réseau fonctionnait. Et puis ils ont arrêté 20 personnes d'un coup. Breaking Bad à la française, Faribou. Est-ce que c'est elle qui a été à l'initiative pour le démantèlement? Cobb, tu parles de la mère? Non, 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 non. Pas du tout. Hein. C'est elle, elle est. C'est pas elle, a priori, qui a dénoncé le trafic aux policiers, quoi. Après, le procès va avoir lieu, donc on en saura un peu plus dans les prochains mois. Hein. Mais c'est bon. Heureusement que c'est rarissime. Hein. Espérons juste que ce qui se passe là est un fait totalement isolé et que ça se produit pas dans d'autres villes de France. Allez, encore, puisque décidément c'est que des choses un peu tristes ce matin. Les conditions atroces dans lesquelles cette petite chienne, le premier être vivant envoyé dans l'espace, comment s'appelait-elle, Laïka, est morte. C'est le Parisien qui nous raconte ça, c'est pas très très gai, je suis désolé. Notamment pour les amis des animaux. Je remercie Gaël Harry, je t'ai pas remercié tout à l'heure. Merci pour le 2e mois d'abonnement. Vous êtes prêts? C'est encore une histoire triste. Ouais, petite Laïka. Alors, Le Parisien qui commence une série un peu sympa sur les animaux célèbres. Enfin, sympa, c'est pour le premier épisode, c'est plutôt triste. Premier être vivant donc envoyé dans l'espace, c'était en 1957. La petite chienne connut une gloire mondiale. Tout le monde peu ou prou connaît le nom de cette chienne, Laïka, mais aussi une fin terrible, et on en sait un petit peu plus. Laïka, chienne martyre, même écrit Le Parisien, de la conquête spatiale. L'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas. Des oreilles à pointe tombante, elle est là, elle est toute mignonne, un pelage blanc et noir, un regard doux, confiant. Passée au rang d'icône, Laïka restera à jamais la première chienne à faire le tour de la Terre. Voyage qui se transforma en cauchemar pour le premier être vivant envoyé dans le cosmos. Quand le 31 octobre 1957, des scientifiques soviétiques l'installent à bord de Spoutnik 2, ils savent que l'animal n'en réchappera pas. Bon, ça, tout le monde le sait. Hein. Ils vont pas faire revenir le satellite sur Terre. Donc, on sait que elle va pas revenir vivante, quoi. Mais les conditions de sa mort sont quand même un peu atroces. Un mois avant, l'URSS, puisqu'on était avec l'Union soviétique à l'époque, a traumatisé l'Amérique en envoyant Spoutnik 1 faire le tour de la Terre. Ils étaient sur ce point assez en avance. À l'approche du 7 novembre, qui est la date du 40e anniversaire de la révolution bolchevique, Nikita Khrouchtchev, donc le président russe de l'époque, veut un second lancement. Sergueï Korolev, le patron du programme spatial soviétique, a l'idée de placer cette fois en haut de la fusée, du missile, une capsule en portant un chien. Les scientifiques militaires soviétiques n'ont que 4 semaines pour concevoir le vaisseau, ceci expliquant peut-être cela, ils vont un petit peu vite. Le chien étant à l'époque l'animal dont ils ont étudié le mieux la physiologie, ils puivent dans leur réserve canine de chiens errants. Depuis le début des années 50, en fait, ces scientifiques soviétiques mènent toute une série d'expériences avec des chiens errants. Bon, on n'a même pas envie d'imaginer ce qu'ils faisaient. Pour cette mission très politique, ils choisissent trois petits chiens glanés dans les rues de Moscou. C'est ainsi que Laïka et ses camarades se retrouvent jetés dans le grand bain de la guerre froide, subissant un entraînement digne d'un cosmonaute. Dans le plus grand secret, on les passe à la centrifugeuse, truc qui va très vite comme ça. On les bombarde de bruit, de vibrations pour que ces chiens apprennent à maîtriser leur peur. On les place dans des cages de plus en plus petites pour qu'elles s'acclimatent au confinement. Au final, donc, ils choisissent un des trois chiens, c'est Leica. Elle a 3 ans, elle pèse 6 kilos, elle est très 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 douce, très très tranquille. C'est peut-être pour ça qu'elle est choisie. Elle a 3 ans. Le 31 octobre 1957, bardée de capteurs, elle prend donc place dans le tout petit vaisseau. Et le 3 novembre, c'est le grand départ. Je lui ai demandé de nous pardonner et j'ai pleuré en la caressant une dernière fois, racontera plus tard. Il y a le biologiste russe Adilia Kotsovskaya, puisque ces scientifiques ont parlé après, c'est comme ça qu'on a appris ce qui s'était passé. Réservoir pour recevoir ces déjections, climatisation. Les scientifiques soviétiques s'étaient pourtant mis en quatre pour aménager le calvaire de l'animal. La véritable fin de Laïka, on la connaît hein, depuis la chute de l'Union soviétique, lorsque les participants à cette mission se mirent à parler, donc c'est su depuis un moment, moi je ne savais pas tout ça. Contrairement à la version officielle, Laïka n'est pas morte au bout d'une semaine, mais au bout de 4 ou 5 heures seulement. Dès le décollage, la chienne a été saisie d'une peur panique sous l'effet des jets, des accélérations reçues. De 103 pulsations par minute, son rythme cardiaque est monté à 240 pendant le décollage. Il lui a fallu 3 heures pour retrouver un souffle normal, 3 fois plus que lors des essais au sol. Une fois en orbite, la chienne vécut un véritable enfer. À bord, la température grimpa en flèche en raison d'une défaillance de la régulation thermique. À 41 degrés, elle se retrouva cuite de chaleur, de stress et brûlée par les radiations solaires. Dans son linceul d'acier, la petite chienne fit 2570 fois le tour de la Terre 5 mois durant, jusqu'à ce que Spoutnik 2 se désintègre en retombant dans l'atmosphère, ce qui était prévu bien sûr depuis le début. Plus le temps passe, plus je le regrette. Nous n'aurions pas dû faire cela, se repentit en 98 le médecin Oleg Gazenko à propos de la petite chienne. Nous n'avons pas appris assez de choses avec cette mission pour justifier le sacrifice de ce chien. Voilà pour l'histoire, que je ne connaissais pas d'ailleurs. C'est atroce quand même. Je vous avais dit, un lactus ce matin, c'est pas... Alors, il y a un autre petit article à droite qui est intéressant sur qui va un petit peu au-delà d'ailleurs de l'histoire. C'est la question, c'est est-ce qu'un sacrifice utile? Parce qu'à un moment, le Parisien, c'est bien d'ailleurs, va plus loin et dit bon, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois qu'on se sert d'animaux pour faire progresser l'humanité. Ici en matière spatiale, en matière médicale aussi, et est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement, se demande le Parisien. 65 ans après, la question reste ouverte. Les tests sur les animaux comme un substitut de l'homme sont vieux comme le monde. En 1885, c'est avec des chiens et des lapins que Louis Pasteur, par exemple, conçoit le premier vaccin contre la rage. Sans le furet, le hamster, le vaccin contre le Covid-19 n'aurait pas vu le jour aussi rapidement. Ces essais sur ces cobayes animaux ne manquent pas de susciter des controverses. Notre réglementation a 75 ans de retard, critique par exemple André Ménage, qui est conseiller scientifique d'associations hostiles à l'expérimentation animale. On dispose, dit ce scientifique aujourd'hui, de méthodes alternatives, comme la culture de cellules souches, mais les industriels font de la résistance. Chaque année en France, près de... Le chiffre est fou. Chaque année en France, on utilise près de 2 millions d'animaux dans les laboratoires. 2 millions. Depuis 1986, l'Union européenne s'est dotée d'une législation spécifique sur l'utilisation des animaux à fin de recherche, mais en dehors de soins minimaux, rien d'autre n'est prévu et les contrôles sont inexistants. En fait, il y a une législation, mais en fait, rien pour encadrer réellement. 2 millions d'animaux. Chaque année, en France, rien qu'en France. Donc le Parisien demande est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Certains scientifiques disent que oui. Je vous lis là-dessus. Malheureusement, ça permet de comprendre pas mal de choses, dit Popo Vigno. Sacrifier une vie pour en sauver des milliers d'autres, dit Yuri Stein 78. En revanche, rien ne justifie la souffrance, c'est ignoble, estime Lemovices. El Gigantou 69 estime que l'expérimentation animale est nécessaire à moins que vous ne soyez prêt à avaler des médicaments jamais testés sur un être vivant auparavant. Oh, mais. Décidément, c'est pas très. Oh, vous avez vu ça encore? Ah, pas très content de mon nouveau setup là. J'ai changé des trucs, ça bouge tout le temps. Bon, en tout cas, j'ai hâte de lire les autres épisodes à venir du Parisien sur les animaux célèbres. Demain, rendez-vous avec Paul le Poulpe, l'oracle de la Coupe du Monde 2010. J'espère que ce sera un peu plus souriant quand même. Allez, on va essayer de sourire un instant parce que l'actualité de ce matin, elle est un petit peu pesante. Horoscope, c'est parti. Et c'est Capricorne, c'est gagné. Alors les nouveaux vont rien comprendre de ce qui s'est passé. C'est Monsieur Dodo qui a gagné avec Capricorne, qui a anticipé sur la page. Oh, mais ça n'arrête pas de sauter. Nouveau setup là. Excusez-moi. Donc c'est Capricorne. Les nouveaux et nouvelles, je vous explique quand arrive la page horoscope du Parisien, le premier, la première à me donner son signe astrologie dans le chat, je lui lis, on n'y croit pas, mais ça nous fait rigoler. Ce matin, on en a un petit peu besoin. Capricorne, let's go. Capricorne cœur, entouré de vos amis, vous passerez une bonne journée. Ça va? Ok. Capricorne réussite, à force de provoquer la chance et de la finir par arriver. Ok. On se mouille pas trop. Capricorne forme, vous jouissez d'un bon équilibre. Ok. Monsieur Dodo, Capricorne, c'est plutôt pas mal. Le baromètre de l'amour, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Sagittaire, soyez plus affectueux les Sagittaires et doux avec les êtres qui vous sont chers. Très bon conseil. Baromètre de l'amour pour les poissons, prenez des initiatives et dépassez certaines de vos appréhensions. Ah, c'est intéressant. Voilà, c'est l'anniversaire de Roger Federer et Dustin Hoffman aujourd'hui. Voilà, Monsieur Dodo. Lion, c'est mon anniversaire. Oh, il y en a qui essayent de me tenter. Non, 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 c'est un signe, c'est un signe. Soyons, c'est un signe par jour. Parfois, je déborde, mais c'est un signe. Allez, politique avec Libération maintenant, mais politique pas chez nous, politique en Amérique du Sud. Hein, l'Amérique latine qui s'ancre à gauche, c'est le dossier proposé par Libération ce matin. Yves Dutraisse, j'espère que tu vas bien et merci pour ce 12e mois d'abonnement. Un an que nous sommes ensemble, c'est beau. Non, je galère, j'ai rien là-dessus, mais je vais suivre, voir si je trouve des choses sur One Piece. L'Amérique latine s'ancre à gauche, nous explique Libération ce matin, avec la Colombie, c'était dimanche, qui a rejoint donc dimanche les autres pays du sous-continent qui sont passés à gauche ces derniers mois, ces dernières années, club cependant traversé par des courants radicalement opposés. Amérique latine vers la gauche en courant, joli jeu de mots, puisque c'est un phénomène qui est assez rapide et en courant parce que ce ne sont pas forcément les mêmes gauches qui arrivent au pouvoir. Avec l'entrée en fonction dimanche donc en Colombie de Gustavo Petro, la quasi-totalité du sous-continent est désormais dirigé par des gouvernements de gauche, ce n'est pas rien, qui ont bénéficié d'un effet dégagisme, on va voir de quoi il s'agit, mais qui forment un bloc hétérogène et fragile. Dans l'histoire de la Colombie, il faudra donc marquer ce 7 août d'une pierre blanche. Pour la première fois de l'histoire du pays, dimanche, un président de gauche est entré en fonction dans ce pays historiquement proche des États-Unis, qui a longtemps fait office de bastion de la droite continentale, l'ancien guerriero Gustavo Petro, a été élu au second tour. Il sera secondé par l'ultra-populaire Francia Marquez, qui est une femme afro-descendante. Encore une première, écrit Libé. Le triomphe de Gustavo Petro et de Francia Marquez en Colombie est le dernier d'une longue série de succès électoraux de progressistes de tout genre en Amérique latine depuis la victoire d'Andrés Manuel López Obrador au Mexique en 2018. Donc la vague a commencé à ce moment-là avec le Mexique. En quelques années, l'Argentine, 2019, la Bolivie, 2020, le Pérou 2021, le Honduras 2021, le Chili 2021 ont été conquis par des régions qui se réclament donc de gauche. Si bien qu'avec 6 de ces 7 États les plus peuplés classés à gauche, le sous-continent apparaît désormais plus rouge ou rose que n'importe quelle autre région du monde. 6 sur 7 parce qu'il manque le Brésil, mais ça on va en parler dans un instant. Ah bah voilà. En attendant le mastodonte brésilien qui pourrait basculer en cas de victoire pour le moment promise par les sondages de l'ancien président Lula contre le chef de l'État d'extrême droite Jair Bolsonaro lors du scrutin présidentiel d'octobre. Donc si le Brésil bascule à gauche en octobre prochain, eh bien on aura l'intégralité de l'Amérique du latine qui sera à gauche. Vague rose, pas vraiment. La formule déjà utilisée au tournant du XXIe siècle quand Hugo Chavez était arrivé au pouvoir au Venezuela, Lula au Brésil, Evo Morales en Bolivie, Michel Bachelet au Chili, est employée avec précaution, estime Libé. D'abord parce que les gauches qui gouvernent l'Amérique latine forment un bloc composite traversé par des courants qui sont parfois radicalement opposés. Aucune similitude par exemple entre le Chili du social-démocrate Gabriel Boric et le Nicaragua de Daniel Ortega qui est devenu président pour la première fois en 1979 au terme d'un mouvement populaire d'inspiration socialiste, mais dont le régime a désormais tout d'une dictature conservatrice, qui enferme les opposants et persécute les journalistes. Cuba, où la constitution elle-même garantit le rôle dirigeant du Parti communiste, et le Venezuela de Nicolas Maduro, responsable d'une dérive autoritaire, sont également des États à part, donc à gauche et gauche. Sans parler des cas particuliers du Pérou et des positions sociétales ultra-conservatrices du nouveau président Pedro Castillo, opposé au droit à l'avortement, favorable par exemple au retour de la peine de mort, la nouvelle génération de leaders progressistes incarnés par Gabriel Boric et Gustavo Petro s'efforce de se démarquer de ses voisins jugés encombrants. Au-delà des divergences idéologiques, la vague rose semble relever davantage d'un mouvement dégagisme que d'une aspiration profonde des peuples à des politiques de gauche. Directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, Gaspar Estrada observe un ras-le-bol vis-à-vis des élites politiques et économiques, renforcées par la pandémie de coronavirus, qui a mis en exergue les difficultés de nombreux pays, aggravé la pauvreté, aggravé les inégalités. Dans ce contexte, dit-il, le discours de protection sociale de la gauche a été porteur. Il y a un rejet des majorités précédentes qui étaient justement des majorités de droite. La crise sanitaire, la crise économique qui est allée avec, ont joué un rôle. Dynamique qui est fragile, selon un chercheur associé à l'IRI, qui s'appelle Jean-Jacques Kourlianski, qui souligne la volatilité des électeurs qui votent pour l'estomac et exigent des changements immédiats. Les gauches démocratiques d'Amérique latine se retrouvent néanmoins dans leur projet de justice sociale et de lutte contre les inégalités. Des gauches qui arrivent au pouvoir en Amérique du Sud qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont arrivées au pouvoir il y a quelques temps. Par exemple, sur la question de l'environnement, décidé à abandonner l'extractivisme pour un modèle économique décarboné et durable, Gustavo Petro a d'ores et déjà annoncé, donc en Colombie, si je ne dis pas de bêtises, l'arrêt des techniques de fracturation hydraulique utilisées dans l'exploration des ressources de schiste. Longtemps négligée par les gauches dans cette région, la défense des droits des femmes est aussi devenue ici et là une priorité, à commencer par la question de l'avortement, légalisé en Argentine en 2020, qui pourrait être sanctuarisé dans la nouvelle constitution chilienne. Je crois que ce serait une révolution dans ce pays, celle-ci venait à être adoptée lors du référendum du 4 septembre, c'est dans quelques semaines. Voilà pour ce dossier de libération sur cette vague de gauche en Amérique latine. Pendant que Limulus nous fait un petit bonjour depuis le Kazakhstan, on voyage. Qu'est-ce que tu as raté, Fanderaftel? Deux, trois petits trucs, mais que tu auras en replay, ne t'inquiète pas. Barbouillef, merci beaucoup pour le cinquième mois d'abonnement. Tank HWB, merci aussi pour le Prime. Qu'est-ce qui se passe, Pain de Mie, qui se réveille difficilement? Merci d'être avec nous. Question très difficile, enfin c'est la réponse qui est difficile. Morninx, bonjour, j'ai découvert ce format depuis peu et j'arrive à chaque fois quand les streams sont déjà bien entamés. Quel est l'horaire du stream? Merci d'avance. Alors aujourd'hui c'est exceptionnel, on a commencé à 11h30 parce que j'étais invité sur Europe 1 ce matin. Quand je suis en vacances l'été, le stream démarre vers 8h30, 8h45. Voilà. Quand je suis en matinale de France Info, on va reprendre fin août, le stream, il faut que je rentre de la matinale de France Info, commence vers 9h30, 9h45. Voilà. Donc 8h30, 8h45 pendant les vacances, 9h30, 9h45. L'été, sauf la semaine où je suis à question pour un champion, où là, c'est pas possible. Voilà. Et une nouvelle émission hebdomadaire qui arrive très bientôt. Tu sais tout. Et là, en fait, on vient de démarrer. Voilà. Beaucoup d'actualités internationales, madame. Et encore. Et c'est pas parce que c'est des sujets un petit peu secs et qui provoquent pas beaucoup de sourires que je voulais mettre de côté. Là, par exemple, on a un rapport qui fait couler beaucoup d'encre d'Amnesty International, l'ONG, sur l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine. J'aurais pu vous la mettre de côté en disant « putain, la vache, c'est lourd ce matin ». Eh ben non, je vous la lis parce que je veux que vous soyez au courant de tout. En Ukraine, Amnesty, maladroit, estime Libé en tout cas, avec le droit de la guerre. Depuis la publication d'un communiqué sur la mise en danger de la population... Arrête, Jax. C'est pas moi, c'est Tintin. Depuis la publication d'un communiqué sur la mise en danger de la population civile par les autorités ukrainiennes, les critiques pleuvent sur l'organisation de défense des droits humains. La responsable de l'ONG dans le pays a démissionné d'Amnesty, fustigeant un outil de propagande russe. C'est extrêmement tendu. Donc, c'est pas vraiment un rapport, c'est plus un gros communiqué Il traite pourtant d'un sujet grave et sensible, les violations du droit international humanitaire imputées aux forces armées ukrainiennes, dans la défense de leur pays, envahi par la Russie depuis le 24 février. Depuis sa parution, c'était jeudi, le communiqué est violemment critiqué. L'affaire a même tourné à la crise interne avec la démission de la responsable d'Amnesty de l'équipe ukrainienne qui a démissionné. Oksana Pokarchuk, c'est elle, je pense, en bas, là, qui a eu des mots très durs parlant de cette publication comme d'un outil de propagande russe. La section ukrainienne reproche à l'organisation de l'avoir évincée de cette requête réalisée par deux chercheurs spécialistes des crimes de guerre, mais sans expérience approfondie du terrain, notamment du terrain ukrainien. Les dirigeants ukrainiens s'en sont pris assez vertement à l'ONG. Le président Zelensky s'est insurgé, je cite, contre un rapport dans lequel la victime et l'agresseur sont d'une certaine manière mis sur un pied d'égalité. L'ONG tente d'amnistier l'État terroriste de Russie, a jugé le président Zelensky. Les investigations d'Amnesty se sont étendues sur plusieurs semaines entre avril et juillet. Qu'est-ce que reproche Amnesty à l'Ukraine? C'est toute la question. À leur issue, Amnesty estime avoir trouvé des éléments prouvant que les forces ukrainiennes ont lancé des attaques depuis des zones résidentielles peuplées et qu'elles se sont basées dans des bâtiments civils, dont 19 bâtiments et villages de ces régions. L'ONG considère que les militaires ukrainiens ont mis en danger des civils en tenant des positions trop proches des zones habitées. L'organisation considère enfin que les forces ukrainiennes devraient s'installer dans d'autres lieux, comme des bases militaires ou des zones densément boisées. Amnesty, qui adopte là donc quoi ? Une lecture, estime Libération, strictement juridique du conflit, sans prendre en compte les enjeux opérationnels d'une invasion qui passe essentiellement par la conquête, voire la destruction des villes, centre de pouvoir dans un pays où environ 60% de la population vit dans les zones urbaines. Ce faisant, l'ONG, estime Libération, crée une symétrie de fait entre les deux belligérants, les mettre sur le même plan, alors, en oubliant peut-être, estime Libé, qu'il y a un agresseur et un agressé, qui est conforme au droit international et humanitaire, mais qui exaspère Kiev, qui fait face à cette agression armée. Voilà, je trouve que l'analyse de Libération est assez... assez clair. Alors, Azdrev pose la question qu'il faut se poser sur l'article. Azdrev, tu dis, est-ce que c'est pas possible que les deux soient à leur manière en tort ? Alors, Amnesty reproche donc, vous l'avez compris, aux forces ukrainiennes d'avoir rassemblé ses troupes ou ses canons ou lancer des offensives depuis des zones densément peuplées. Et dit, vous auriez dû vous mettre, comme le demande le droit international, dans des bases militaires ou des zones non peuplées pour ce faire. Et ce à quoi les autorités ukrainiennes répondent, mais c'est méconnaître la façon dont cette guerre se mène. De toute façon, les offensives sont menées contre des zones urbaines, donc nos offensives partent de là pour les défendre. Voilà. Donc c'est méconnaître le théâtre de cette guerre, et puis c'est oublier aussi, dit l'Ukraine et les soutiens de l'Ukraine, c'est méconnaître aussi que ce ne sont pas deux belligérants qui se font la guerre à égalité, mais c'est bien un belligérant qui déclare la guerre à un autre, à un pays, pour l'envahir, et donc là, en se faisant, en critiquant notre défense, vous nous mettez sur le même plan alors que ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc pour revenir à ta question, Azdrev, est-ce qu'il n'est pas possible que les deux soient à leur manière en tort ? Le risque aujourd'hui, c'est de dire, au vu du rapport d'Amnesty, en fait, ils ont tous les deux tort finalement, et que finalement ils sont aussi fautifs l'un que l'autre dans la manière dont cette guerre est menée. Or, ce faisant, c'est oublier qu'il y a un agresseur et un agressé, il y a un déclencheur. Un camp qui subit. Donc le discours qui consisterait à supposer que ce soit vérifié que les par exemple les deux camps sont responsables de crimes de guerre par exemple et les mettre sur le même plan, ce serait oublier la réalité de ce conflit. Je crois. Je vous lis un petit peu. Comme le dit Joliot, c'est quand même un comble d'accuser les Ukrainiens de mettre en danger leur population dans cette histoire. C'est vrai que si la Russie n'attaque pas l'Ukraine, les civils ukrainiens ne sont pas en danger. C'est un peu ce que dit Libération finalement. Voilà. Happy Birthday écrit, Amnesty dénonce tous les crimes. Et en même temps, Amnesty est dans son rôle aussi, ce faisant. Après, c'est à nous, citoyens et journalistes, la manière dont on analyse, dont on reçoit ce rapport, qui est plus un communiqué d'ailleurs d'Amnesty, que nous avons un rôle à jouer, quoi. Amnesty est peut-être dans son rôle en faisant ça. Bonne journée, Lily Plus. Allez, je vous lis encore un petit peu là-dessus, c'est intéressant. Voilà, comme écrit Poison, la Russie cherche à prendre des territoires et on demande aux Ukrainiens de s'éloigner des villes. C'est vrai que c'est un peu étrange. Nico estime que c'est un peu le « elle avait des talons et une jupe trop courte » adaptée à la guerre, et que c'est aberrant. Voilà, c'est pas... Ouais. C'est un peu difficile de choisir où se battre quand on se fait envahir, écrit Mathilde. Madflou, à l'inverse, dit « ils utilisent la population comme bouclier, c'est un crime, c'est comme ça, et Amnesty a bien dit que cela n'enlevait en rien les atrocités russes. » Je lis le message de Bruce09. Sans être complotiste pro-Russie, je pense que ce n'était pas invraisemblable que l'armée ukrainienne ait mis en danger des civils. Juste pour nous, occidentaux, comme un discours pro-ukrainien est à juste titre proféré dans les médias, le fait que les Ukrainiens commettent des torts nous semble inenvisageable. C'est vrai que c'est un truc dont on parle de temps en temps. Dans l'actualité, rien n'est, hélas, enfin, l'actualité, c'est rarement noir et blanc. Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais alors dans le conflit israélo-palestinien, c'est qui les gentils? Ce serait tellement simple si l'actualité se résumait ainsi. Hein. Et si je pouvais vous dire, moi, Samuel Etienne, à la lecture de 25 ans de recul sur l'actualité, alors ce sujet, c'est très simple, les gentils, c'est cela, les méchants, c'est comme ça, et puis comme ça, on peut passer à l'étape d'après. Et hélas, sur la plupart des sujets, c'est pas blanc et noir, c'est beaucoup plus... C'est des dégradés de gris. Alors, par exemple, dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, on peut estimer que évidemment, la faute originelle... elle revient bien sûr à l'agresseur russe, mais qu'il n'est peut-être pas impossible à certains moments hein, de s'interroger sur des exactions qui auraient pu être commises par l'armée ukrainienne, par exemple. En quoi ça enlève de la responsabilité russe dans cette guerre? Rien. Voilà. Mais évidemment, c'est pas parce qu'il y a clairement un agresseur et un agressé qu'on ne peut pas s'interroger, je ne dis pas que ça existe, hein, qu'on ne peut pas s'interroger à un moment sur des exactions qui auraient été commises des deux côtés. C'est de la guerre, et une guerre, c'est forcément sale. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Posez la question. En tout cas, le rapport d'Amnesty soulève beaucoup provoque beaucoup de réactions. J'aimerais tellement être manichéen et vous dire, mais moi, je sais qui a raison, je sais qui a tort. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Bon, alors là, on va s'aérer carrément la tête, puisqu'on va jouer avec Libération. Ça fait du bien, vu l'actualité de ce matin. Enfin, ce matin, il est 13h05. Mais bon, d'habitude, c'est le matin, donc on dit le matin. Axoun, merci pour le Prime. Merci. Barouillef, merci pour le 5e mois d'abonnement. Alors, le jeu de Libération. Libération, depuis le début de l'été, publie. Publie un portrait de personnalité, publié dans le passé, et... Hop, regardez, comme ça, le republie, mais en enlevant la photo et le nom de la personnalité, et il faut trouver. J'ai mis du temps, j'ai mis du temps à trouver ce matin. Voilà. Quéquette de sens, je vous montre juste le titre. Quéquette de sens, voilà, ça c'est le titre. Voilà. Il s'agit de trouver la personnalité. Le premier qui trouve a gagné. Donc c'est pas Jacques Chirac, c'est pas Jacques Dutronc. Tout petit déjà, ce monsieur, donc c'est un homme, je ne vous montre pas le papier pour que vous n'anticipez pas sur les indices. Voulait être une star. Non, vedette d'ailleurs. Rectifie-t-il, c'est comme ça qu'on disait Eddie Merckx ou Belmondo, Mérine ou Pompidou, peu importe, j'étais un garçon qu'on ne regardait pas. Je me disais, un jour, je vous montrerai que j'existe. Pierre Perret, Dominique Strauss-Kahn, Gainsbourg, DSK, Francky Vincent, parce que Kékette, non. Non, non. Son public est de ceux qui viennent en couple ou en famille, ne feignent pas d'être blasés quand ils vont au spectacle, n'aiment rien tant que de se faire moquer par un gars comme eux, répète-t-il, de se faire moquer, spectacle, ok. Dans son nouveau one-man show, monsieur fait monter des petites vieilles sur scène. C'est pas Jamel Debbouze, non, c'est pas Papi Déa, on parle plutôt d'un humoriste, c'est pas Bigard. Oh, il y a écrivain qui a trouvé. Ok, écrivain a trouvé, vous aussi vous l'avez pas, vous l'avez ou pas? Monsieur Der fait monter des petites vieilles sur scène, qui l'embrasse sur le front, poursuit ses lourdes saillies sexuelles escato. Sa kékette Jean-Claude, puisqu'il a baptisé sa kékette qui s'appelle Jean-Claude, ça vous... Il y a écrivain qui a trouvé. Vous l'avez ou pas? Ouais, Jojo Lafrosse, tu l'as aussi. Non, il a appelé sa kékette Jean-Claude. Renan Guenou, tu l'as. Tu l'as, ouais. Enfin, ça, c'est un, c'est du Bosque, ok. Bon, bah, à kékette Jean-Claude, vous l'avez, ok. C'est du Bosque. C'est du Bosque. C'est quoi son prénom? Franck, c'est Franck Dubosc, exactement. Voilà. Patrick, alias Patrick Chirac. Voilà. Donc il a baptisé son engin. Alors la suite de l'article. Moi je suis pas un grand spécialiste de la carrière de Franck Dubosc et c'est vrai que j'ai du mal à trouver. À Kékette Jean-Claude, j'avoue, j'ai googlisé Kékette Jean-Claude et j'ai trouvé Franck Dubosc, mais sinon je l'avais pas avant. Voilà. Monsieur Dubosc donc raconte sa vie dans ses spectacles à Libération aussi. Enfance modeste, milieu modeste, HLM de la banlieue de Rouen, les dîners devant les chiffres et des lettres. Il paraît qu'elle aime beaucoup Question pour un champion, donc forcément c'est quelque chose de très sympathique. À la dernière présidentielle, monsieur Der, bon, ce qui fait la dernière page, n'a pas voté. Je ne savais plus où j'en étais. J'ai une culture de gauche et une voiture de droite. Voilà. Si l'article parlait d'un humoriste, spectacle. Et toi, Samuel, tu l'as baptisé? Baptisé de quoi? Ah non, je baptise pas, moi. Non. Ton historique Google, ça doit être drôle à voir. Mon historique Google est super bizarre. Voilà. Donc, c'était Franck Dubosc. Bravo à écrivain notamment et à d'autres qui l'ont trouvé très, très tôt. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. Hein. Je ne suis pas un grand spécialiste des humoristes qui baptisent leur quéquette, donc, mais voilà. J'espère que l'article suivant va être un peu plus léger, enfin que ce qu'on a lu jusque-là, voyons. Oui, vachement plus léger, puisqu'on parle de gaz. Excellent. L'Allemagne, donc, parce que nous, on se plaint un petit peu des restrictions de gaz russe et de l'hiver qui arrive, mais manifestement, c'est pour l'Allemagne que ça va être le plus dur en Europe, ce qui arrive dans les prochaines semaines, les prochains mois. L'Allemagne se mobilise pour vivre sans gaz russe, c'est même... La une du Figaro ce matin, confronté à une grave crise économique, le chancelier allemand, donc Olaf Scholz, envisage de prolonger l'activité des trois dernières centrales nucléaires du pays qui devraient fermer d'ici à la fin de l'année. Le débat fait rage en Allemagne sur fond de crise énergétique. Les trois dernières centrales nucléaires du pays doivent-elles continuer de fonctionner au-delà de la fin de l'année? Date prévue pour leur fermeture puisque l'Allemagne a décidé de fermer toutes ses centrales nucléaires. Olaf Scholz a déjà indiqué que cette option ferait sens, donc de maintenir les trois dernières centrales au-delà de la fin de l'année. Aux prises de position quotidiennes de tous bords ne manque que celle de l'ancienne chancelière qui n'a pas encore pris position, Angela Merkel, maîtresse d'œuvre, c'est elle qui avait décidé de l'arrêt de l'exploitation de l'atome, décidé dans la foulée de la catastrophe de Fukushima en 2011. C'est dans la foulée de la catastrophe de Fukushima que les Allemands décident de se passer de toute énergie nucléaire et de fermer toutes leurs centrales. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Depuis, la guerre en Ukraine a changé la donne. En réponse aux sanctions occidentales, Poutine utilise l'arme du gaz dont l'industrie allemande est lourdement dépendante, beaucoup plus que notre économie. Hein. Les prix s'envolent, des pénuries pourraient avoir de graves conséquences l'hiver prochain en Allemagne. Pas seulement parce qu'il fait très froid, Babylonia en Allemagne l'hiver, mais aussi parce que l'industrie allemande en consomme beaucoup plus que nous de ce gaz, et notamment de ce gaz russe. Bombe énergétique même, dit Philippe Gély ici dans son édito en bas. Hop, zoomons un petit peu. Je zoome un peu sur l'édito pour vous. Voilà, j'ai changé ma tablette pour pouvoir plus zoomer, regardez. C'est pour ça que j'ai des petits problèmes de connectique, mais c'est plutôt mieux. Par contre, c'est un petit peu sombre, un peu gris. Je vais essayer de vous booster la luminosité dans les prochains streams. Bombe énergétique, carrément. la plus puissante la plus lourde puissance industrielle du continent, gloutonne en gaz russe, est au bord de la catastrophe. À bord d'approvisionnement, de réserves et d'alternatives, elle voit déjà sa croissance stagner, l'inflation, le chômage grimper avant même le choc de l'hiver, avec le risque, et ça c'est pas une bonne nouvelle pour nous, d'entraîner toute la zone euro dans la récession quand l'économie allemande tousse. En général, c'est l'économie européenne qui tousse aussi. Quoique vert, le ministre allemand de l'économie, de l'énergie, de la protection du climat, qui s'appelle Robert Habeck, fait preuve d'un pragmatisme louable. Résigné à une décision amère mais indispensable, il a recours aux centrales à charbon, dont il devait pourtant préparer la disparition avant 2030, et il soutient aussi le contre-pied du chancelier social-démocrate Olaf Scholz sur le nucléaire, puisque Berlin s'apprête à prolonger, manifestement c'est un secret de polichinelle, l'activité de ces trois dernières centrales nucléaires, qui étaient censées fermer pourtant d'ici la fin de l'année, survivantes de la décision hâtive, écrit le Figaro, de renoncer à l'atome prise par Angela Merkel en 2011 après la catastrophe de Fukushima au Japon. La facture de gaz des Allemands a déjà triplé. Elle devrait même quadrupler d'ici la fin de l'année, avec l'agitation sociale qui devrait s'en suivre. C'est tout le modèle économique allemand. Importation d'énergie à bas coût de Russie, exportation à forte valeur ajoutée vers la Chine, qui menace d'exploser. C'est vrai qu'on a un modèle économique assez différent du modèle économique français. Sous le poids des sanctions, Vladimir Poutine manipule à plaisir cette bombe à retardement économique, conscient qu'en déstabilisant l'Allemagne, il déstabilise l'Europe. Vachement intéressant. On anticipe un petit peu sur les problèmes que devrait connaître l'Allemagne dans les prochaines semaines. C'est pour ça que je trouve la une du Figaro intéressant. Perso, ma facture d'électricité est passée de 55 à 95 euros. Sans modification de consommation, va rire cet hiver. Caroc, ça veut dire que t'es abonné quand même au truc, au fournisseur historique, ou t'es passé à la, comment dire, à la concurrence là, pour que ça augmente autant. C'est fou, quoi. Je trouve ça énorme. Menela, je repose ma question vite fait. Que penses-tu des biais des journaux? Penses-tu qu'il est possible d'être objectif? Je ne crois pas à l'objectivité. Même en essayant d'être objectif, on est subjectif, puisqu'on est plein de filtres, moi, vous, les journaux. Je crois plus à l'honnêteté. Tous les journaux que je vous lis ont des lignes éditoriales, voilà, plus ou moins libérales, plus ou moins de gauche, de droite, parfois proches historiquement d'un parti politique, parfois proches de certains intérêts économiques, parfois proches même de certaines valeurs religieuses, voilà. L'important, c'est que le journal n'avance pas masqué et vous dise clairement dans ses colonnes quelle est sa couleur politique. Et c'est ce qu'ils font. Voilà. À partir du moment où on connaît la couleur d'un journal et sa grille de lecture, et ça je vous le décrypte au quotidien, après c'est à nous, de nous faire notre opinion sur l'actualité. En ayant conscience qu'en lisant ces journaux, eh bien, il y a des filtres qui s'appliquent à l'actualité. Voilà, donc ils visent à l'objectivité, mais ils n'y arrivent pas tout simplement parce que nous sommes pleins de biais. Voilà, il faut savoir les décrypter un petit peu. En revanche, je crois à l'honnêteté et je crois que les journaux que je vous lis sont honnêtes, en revanche. Bon, je vous résume ça parce qu'on en parle très souvent et je ne veux pas saouler les habitués. Alors, je vous lis. EDF a augmenté de 40% ses abonnements chez moi, me dit Nesquerdewer. J'habite en Allemagne. Depuis mars, me dit Erco, le prix du gaz a déjà doublé. On aura la croix aujourd'hui. Oui, Indicaïs, on aura un truc sur l'eau, la pénurie d'eau. EDF, hyper cher, je me fais allumer par les factures d'électricité dans un studio de 20 mètres carrés. Plus de 50 euros par mois. Ah bon, bah moi aussi, ça va augmenter alors. J'ai eu du bol, me dit R. Dr. Klazep. Ma facture d'électricité par un fournisseur local, donc là on parle de l'Allemagne, a été révisée en décembre avec prix bloqué pour 2 ans. Ce sont ceux qui sont en prix libre qui douillent depuis le début de la guerre en Ukraine. Nix Adichat, si on se chauffait à la connerie, il n'y aurait plus de pénurie. Tu m'étonnes. Comme le dit Daruxan, c'est tout l'intérêt de lire plusieurs journaux. On peut moyenner et limiter les biais. Exactement, c'est ma conviction. vous lis. Hein. Je dors pas, hein, je suis en train de vous lire. Voilà. En tout cas, si chez nous le prix de l'énergie augmente et va augmenter, manifestement chez nos voisins allemands, ça va être folie à côté de ça, pour les particuliers et pour l'économie, pour l'industrie aussi. Loop est très sévère avec lui-même ou elle-même et nous dit si on se chauffait à la connerie, je pourrais alimenter l'Europe. C'est dommage parce que ce serait sympa. Allez, on enchaîne avec La Croix. Quelqu'un me disait, je crois que c'est Indy Case à l'instant qui disait est-ce qu'on lit La Croix ce matin? Parce que ça, il y a des jours où je lis le journal pour vous le matin et puis je vous mets aucun article de côté parce que rien ne m'a plu, ça arrive. Ça aussi, c'est totalement subjectif. Mais là, il y a un dossier intéressant sur. Là aussi, on n'est pas dans quelque chose de très très léger ce matin. Demain, il y aura peut-être des choses un peu plus légères dans l'actu, sur la pénurie d'eau en France. Afin de faire face au futur épisode de sécheresse, je crois que c'est la première ministre qui a fait des déclarations en ce sens vendredi dernier, des pistes existent pour mieux utiliser les ressources disponibles. Passage en revue des différentes solutions et de leurs limites. Édito d'abord, l'eau, je pense que tout le monde est convaincu, mais c'est bien de le rappeler, ça n'est pas un bien comme les autres. Un bien pas comme les autres. J'apprécie l'humour de ceux qui me disent dans le chat, comme Karok et d'autres, que c'est l'heure d'un petit golf. On en parlait. Retour d'abord sur la journée de vendredi dernier. Elisabeth Borne a activé une cellule interministérielle de crise pour faire face à la période de sécheresse actuelle, qui est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays et qui pourrait devenir plus préoccupante encore selon Elisabeth Borne. De fait, presque tous les départements de l'Hexagone sont concernés par ce plan sécheresse. Donc c'est un peu du jamais vu, plus d'une centaine de communes en France, n'ont plus d'eau potable. Cette situation devrait perdurer selon les spécialistes. Il nous faut donc apprendre aujourd'hui à vivre en consommant moins d'eau, et pas seulement de manière temporaire. Ça passe par une meilleure gestion du cycle de l'eau, depuis l'entretien des réseaux de distribution pour diminuer les fuites jusqu'à la réutilisation des eaux usées, mais aussi par le choix de cultures, de process industriels moins gourmandes en eau, sans oublier les petits gestes du quotidien, pour réduire la consommation d'une ressource rare qui, à l'échelle d'une nation, n'ont rien d'anodin. Faut-il aussi inscrire le droit à l'eau dans la Constitution, comme le demande par exemple Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, au motif que l'eau doit d'abord aller à la vie plutôt qu'au profit? Certes, cette proposition ne fera pas pleuvoir, comme cela lui a été répondu sur le réseau social. Elle nous pousse cependant à réfléchir sur le statut particulier de l'eau, écrit La Croix, qui n'est pas un bien comme les autres, puisque c'est la condition même de toute vie. C'est pourquoi, avant de revendiquer un droit à l'eau, il faut peut-être commencer par affirmer les droits de l'eau, notamment les droits à ne pas être pollué ou gaspillé, droit aussi à être assaini. Ça, c'est juste l'édito, rentrons dans le détail un petit peu. La Croix qui nous explique que la France connaît donc un épisode de sécheresse exceptionnel, mais que cette sécheresse, elle va sans doute s'installer et il faut apprendre soit à utiliser mieux l'eau, soit à en trouver de nouvelles sources. Donc c'est en deux temps. Voilà. Il y a les économies à faire, on va le voir, page 3, et il y a peut-être de nouvelles sources d'eau à trouver, page 2, dans La Croix. La France connaît donc une période de sécheresse exceptionnelle qui a amené le gouvernement à activer une cellule de crise, c'était vendredi, alors que des épisodes similaires sont appelés à se multiplier, il va falloir là s'y habituer. Il existe des solutions pour mieux exploiter les ressources en eau. Une solution, par exemple, pourrait être de mieux utiliser les ressources existantes. Voilà trois techniques qui permettent de récupérer de l'eau, même si chacune comporte des inconvénients. Réutilisation des eaux usées, par exemple. Recycler nos eaux usées pour nettoyer la voirie, arroser les espaces verts ou encore irriguer les cultures. La technique peine encore à décoller en Europe. C'est très balbutiant, à tel point que la Commission européenne a appelé au début du mois les États membres à mettre un coup d'accélérateur. En France, par exemple, c'est que dalle. Seulement 0,6% des eaux traitées sont réutilisées contre 8% en Italie ou 14% en Espagne. La cause, pendant longtemps, la ressource en eau a été abondante, donc la question de la réutilisation ne s'est pas beaucoup posée. Et puis on a une réglementation en France qui est très exigeante en matière de qualité de l'eau, ce qui est bien, et de contraintes pour la réutilisation. C'est notamment parce que c'est très encadré en France que la réutilisation des eaux usées ne s'est pas beaucoup développé. Sur 60 cas de réutilisation des eaux usées en France, la moitié sert à l'irrigation de cultures et un quart à l'arrosage de golf. Dessaler l'eau de mer, bon ça c'est pas très nouveau, les îles Canaries, l'Arabie Saoudite, Israël, dans une dizaine de pays et régions du monde, Plus de 60% de l'eau consommée provient des mers grâce au dessalement. Bon, ce n'est pas une solution miracle. Pour être vertueux, les systèmes doivent être attentifs aux lieux de prélèvement et de rejet de la saumure, hein, l'eau qui est très chargée en sel qui sort de chêne. Les saumures doivent être rediluées et réparties, faute de quoi elles risquent de détruire l'écosystème marin, explique un spécialiste. Les usines essayent aussi de récupérer une partie des sels pour d'autres usages. Côté consommation énergétique, le dessalement doit être couplé à des énergies renouvelables comme des panneaux solaires parce que c'est une technologie qui emploie beaucoup d'énergie. Autre piste, des filets pour capturer le brouillard et la rosée. Oui, oui, oui. Le nom est pour le moins poétique, filet à brouillard, c'est joli. Déployé au Chili ou dans les montagnes de l'Atlas marocain, cette technique permet de récupérer jusqu'à 40 litres d'eau par mètre cube les jours de fort brouillard. Alors il faut un pays du brouillard. La structure comporte un panneau en toile grise tenu par deux poteaux. Le brouillard formé de milliers de gouttelettes se dépose sur les mailles très serrées. L'eau ruisselle dans un conteneur en bas, c'est parfois assez spectaculaire. Forcément, ça ne peut être installé que dans des zones à brouillard, souvent en altitude, souvent au bord des océans. En France, il y a peu d'endroits qui se prêtent à ça. Mais il y a une alternative qui serait de collecter non pas les gouttes en suspension dans le brouillard, mais de condenser la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère grâce à des surfaces froides et rainurées, version un petit peu high-tech de ce qui se passe, par exemple, sur les brins d'herbe du gazon. Donc, collecter non pas le brouillard, mais collecter la rosée. Donc, il y aurait de nouvelles sources d'eau. Mais sinon, la solution dans un pays comme la France, ce serait peut-être plutôt de faire des économies. Vous êtes très nombreux à me parler de l'arrosage des golfs depuis tout à l'heure, par exemple. Résident 60, merci beaucoup pour ce deuxième mois d'abonnement et coucou à toi aussi. En pleine sécheresse, restrictions d'urgence, appel à lutter contre le gaspillage se multiplient. En ce moment, dans plein de régions, il est interdit de remplir sa piscine, interdit de laver sa voiture. Mais cette sobriété peut aussi se révéler vertueuse en dehors des périodes de crise. Après l'énergie, est-il temps d'entamer une chasse au gaspillage de l'eau ? Il est encore trop tôt, parce que vous êtes peut-être posé la question, pour lier cet actuel épisode de sécheresse au réchauffement climatique. Mais ce qui est sûr, c'est que les scientifiques estiment que la fréquence de ces épisodes et leur intensité vont augmenter en Europe et seront d'autant plus fortes que le niveau de réchauffement sera élevé. Donc, que cet épisode-là soit en lien avec le réchauffement climatique ou pas, de toute façon, il faut s'y préparer. La crise actuelle pose donc la question des économies d'eau. Nous considérons encore trop souvent que l'eau doit être disponible pour répondre aux usages, sans nous poser la question de la durabilité de la ressource, s'inquiète Agathe Eusen, qui est directrice de recherche au CNRS. Qui sont les gros consommateurs ? Ah ! Parce qu'une fois qu'on a posé la question des gros consommateurs, on se dit, bah, c'est peut-être à eux de faire des efforts. Qui sont les gros consommateurs d'eau dans un pays comme la France ? L'agriculture concentre 45% de la consommation finale d'eau. Agriculture, 45%. L'eau utilisée pour le refroidissement des centrales thermiques et nucléaires est le deuxième poste de consommation d'eau en France. 31%. C'est des chiffres, je ne sais pas si vous les aviez, c'est impressionnant. Ensuite, il y a l'eau potable, quand même, 21%. Hein. Les 3% restants, donc on a 45% l'agriculture, 31% refroidissement des centrales, 21% l'eau potable, hein. Il reste 3%, principalement les usages industriels et dans une moindre mesure liés aux collectivités, entreprises de services, espaces verts, golf. Voilà, vous êtes très nombreux à me parler des golfs tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est vrai que ça paraît super choquant d'arroser les golfs, mais quand on prend dans un pays comme la France ce que ça représente au niveau national, j'ai vu le chiffre passer hier ou avant-hier dans un journal, je ne sais plus, c'était 0,1%. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas choquant, mais ce n'est pas en agissant sur ce 0,1% qu'on va faire des économies manifestement, mais plus en allant vers l'agriculture ou l'eau du refroidissement des centrales ou l'eau potable. Voilà. Face aux épisodes des sécheresses, nous réagissons dans l'urgence alors qu'il est possible d'anticiper, relève Olivier Petit, qui est maître de conférence dans une université. L'une des solutions pour gérer la ressource en eau agricole pourrait être la mise en place de quotas de prélèvement d'eau pour permettre le renouvellement de la ressource. Ça impliquerait, dans certains cas, de remettre en cause l'utilisation de cultures très consommatrices, comme le maïs, par exemple, qui consomme beaucoup d'eau, et donc de revoir nos systèmes alimentaires. En dehors de l'agriculture, donc on a bien compris que les cultures avaient un rôle important à jouer là-dedans, tout le monde doit faire la chasse au gaspillage d'eau, car le problème se retrouve à de nombreux niveaux, dit une directrice de recherche au CNRS. Pour inciter à des comportements plus vertueux, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises, de plus en plus de communes proposent des tarifs progressifs qui augmentent par palier en fonction du nombre de mètres cubes consommés et permettent de faire payer davantage aux gros utilisateurs. Des professionnels du secteur qui mettent en avant la nécessité de lutter contre les fuites d'eau aussi au sein du réseau de distribution. Quelqu'un me disait 30%, alors d'après la Croix, c'est 20%. 20% de l'eau potable est perdue chaque année en fuite avant d'arriver au robinet. Alors ça, c'est un truc dont on parle depuis très longtemps. Le problème, c'est que la lutte contre la fuite des réseaux concerne surtout les collectivités territoriales et fait passer par plein de choses, la pose de capteurs de fuite, la modulation de pression, la rénovation des canalisations. Et là, il y a un spécialiste de la question qui dit voilà, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et c'est assez difficile à mettre en œuvre au niveau national. Actuellement, seulement 0,61% du réseau est renouvelé chaque année. Je vous lis un petit peu avant d'enchaîner là-dessus. Ah, les fuites, c'est fou. L'investissement, hein. C'est au niveau régional qu'on agit là-dessus et que manifestement, il n'y a pas beaucoup d'investissement à ce niveau-là. On me dit jusqu'à 50% de fuites pour les petites villes Flopo, 8% seulement pour Paris. Quelqu'un vient de m'appeler à lancer un petit karaoké, je ne comprenais pas pourquoi. Je viens de comprendre maintenant que, vu que je ne chante pas très bien, vous espérez que ça fera tomber la pluie, mais non, je ne chanterai pas. C'est vrai qu'il y a des trucs étranges. Quelqu'un me dit, bah oui, par exemple, c'est un peu bizarre d'avoir de l'eau potable dans nos WC. Bah oui, c'est vrai que. Est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'eau potable dans nos WC, par exemple? Alors, quelqu'un écrit, en agriculture, il n'y a pas le choix. Et Dudwich répond, au contraire, la moitié des céréales produites en Europe est à destination des animaux. Et l'élevage consomme également beaucoup d'eau. Surtout avec la canicule, pour les vaches, ça double la consommation d'eau pour 20% de lait en moins. On sait que notre modèle de consommation, si on le changeait, aurait aussi des incidences sur le modèle de production agricole et ça aurait des conséquences au final sur la question notamment du réchauffement climatique et on le voit aussi de la question de l'eau. Chauve-souris, tous les maillons de la chaîne doivent faire des efforts, mais c'est ridicule de faire peser le plus gros des efforts sur nous. C'est pas à notre échelle que les vrais enjeux se passent. Je dis oui et non. Je dis effectivement que c'est pas nous les particuliers les plus gros consommateurs d'eau potable. On le voit avec ce dossier de la Croix. Mais on voit bien quand même que dans notre façon, notamment de consommer, on peut avoir une incidence au final sur les autres secteurs, agricoles notamment. Hein, on vient de l'évoquer ensemble. Je l'ai encore en deux messages. Merci FlexDAO d'être avec nous ce matin. Je m'excuse un peu parce que l'info ce matin n'est pas super souriante. Voilà, c'est des dossiers un peu carrés, un peu sérieux. Voilà, c'est rare d'avoir autant de dossiers, d'articles aussi sérieux sur des sujets. Bon, mais en même temps, l'actualité, c'est pas forcément qu'une grande rigolade. Mais bon, ce matin, je me trouve un petit peu anxiogène. Je m'en veux un petit peu. Ok, bon, on enchaîne, parce que j'ai plein de trucs à vous lire. Alors, on va parler de réchauffement climatique encore, et dans la famille, dites donc, pourquoi c'est à nous, les citoyens, à notre tout petit niveau, qu'on demande des efforts sur l'eau, sur la consommation énergétique, sur les économies, etc. Alors qu'en fait, c'est pas forcément à notre niveau que devraient être menés les efforts les plus importants, les plus efficaces dans cette famille-là. Et ben voici un dossier de l'Humanité ce matin, je vais vous lire après être repassé à la cuisine chercher un petit café. Eh bien, il faudrait mettre la pression notamment sur les milliardaires, ces criminels climatiques carrément, dit Luma. Les appels à la sobriété pour tout le monde masquent le véritable carnage écologique qu'engendrent les inégalités sociales et l'ultra-concentration des richesses. Jets privés, yachts, tourisme spatial, leurs activités de luxe hypothèquent notre futur. Est-ce que c'est un dossier très idéologique, très teinté idéologiquement ou un truc très carré, bah, c'est vous qui me donnerez votre avis là-dessus. En tout cas, l'angle est assez intéressant. Luma évoque notamment ces sites, ces applis qui nous permettent de suivre les déplacements des jets privés des milliardaires, des écocidaires. On parle un petit peu de foot aussi avec la reprise du championnat. On parlera un petit peu de sport et deux, trois autres choses. Mais quand même, là, 2h10 sans café, c'est pas possible. Donc, je vais me chercher un petit café. J'ai un rendez-vous encore chez le dentiste tout à l'heure, mais j'ai le temps. Je suis bien. Quel journal? C'est l'Humanité, Puido. Ok? Allez. Cherchez un petit café. Je vous mets une mini pause. On va se remettre la petite musique qui était sympa tout à l'heure. Hop. Elle est où ma pause? Elle est là. Je recaféine, recaféinez-vous aussi. Ouais, encore le dentiste, ouais, c'est mon troisième rendez-vous. J'en bave, nom de Dieu. En ce moment, je me bats contre la douleur pour être avec vous tous les matins. J'en chie, mais mon Doliprane est mon meilleur ami. Donc on lit tout ça dans un instant. Je vous laisse 2 minutes. Ouais, le temps d'aller. Merci de French Muser. 12 mois d'abonnement, merci à toi. Et on se retrouve avec le café pour la fin de la revue de presse. Oh, est-ce qu'on peut envoyer de la force au roi Kiss? Bonjour Samuel, je suis aveugle momentanément, je me suis blessé au travail, merci de me redonner le sourire. Du coup, tu peux pas voir les articles, donc tu es obligé de me faire confiance à ce que je lis. C'est bien, je veux dire que je peux changer toutes les infos. Anachronisme, Doliprane, ça ne doit pas être si grave. J'en veux mon médecin, parce que j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus fort, mais j'en chie. J'en chie. Hein. Les douleurs dentaires, c'est saloperie, hein. Saloperie. Pourtant, je me lave les dents comme un ouf, quoi. Puis je peux même plus manger de Crisp Rolls parce que j'ai trop faim. Bon bref, j'arrête de me plaindre. A tout de suite. Yes! Go! Pour visiter une autre chaîne, bien sûr, un des aspects sympas de Twitch. Allez, je vous lis un petit peu et on enchaîne. Mais Flex Ndao, il y a des jours plus difficiles que d'autres, j'ai remarqué votre humeur un peu négative et je savais que c'était lié aux infos. Je suis pas dans un mauvais mood, hein. Je suis super content de vous retrouver ce matin, mais c'est vrai que ce matin, quand je téléchargeais tous les journaux, je disais, oh la vache, c'est que du lourd ce matin, hein. c'est que du bien pesant. Je me suis dit, franchement, quand je lis tous ces dossiers un peu très anxiogènes, je me dis, j'ai la tentation certains matins de dire, attendez, on va pas streamer ce matin, j'ai toutes ces mauvaises nouvelles, ces gros dossiers, merci quoi. Il n'y a pas un peu de ciné, de trucs un peu légers, d'enquête bidon sur un plan sociétal pour nous faire sourire. Et après, je me dis, mais non, mais Sam, c'est pas parce que l'info n'est pas à ton goût qu'il ne faut pas la faire passer, quoi. Donc voilà, on n'est pas dans la grosse plaisanterie ce matin, mais effectivement, j'aime bien quand il y a des choses un peu plus légères que ça, que je n'ai pas trouvé ce matin. Et voilà, je m'en excuse, même si je ne suis pas totalement responsable de ça. Merci Poussino34 pour ce très gentil cinquième mois d'abonnement. Voilà, comme le dit Dark 8, on ne choisit pas ce qui se passe. Voilà. Heureusement qu'il y a l'horoscope. Je vous lis un petit peu, on enchaîne. Qu'est-ce que vous racontez pendant que je suis absent? Ok. Lost in Translation, bon, maintenant qu'il n'est pas là, on peut en parler. Il est un peu douillet, notre Samuel. Je ne suis pas douillet, je suis un gros yakuza. C'est juste que les dents, c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Et à chaque fois que je vois ce jeune dentiste donc, qui remplace mon dentiste qui est parti en vacances, donc je lui dis, parce que c'est plusieurs rendez-vous qu'on a eu ensemble. Alors, c'est comme on l'avait dit, vous avez eu mal pendant 2-3 heures le soir et puis après c'était bon. Ah non, docteur, ça fait 3 jours que j'en chie là. J'arrive pas à dormir, c'est hyper douloureux. Et elle me regarde, me fait ah bon, voilà, c'est tout, elle enchaîne. Je pense qu'elle me prend pour un gros douillet, alors que je suis une machine, quoi, je suis un Golgoth, quoi, en vrai. La douleur ne passe pas par moi, et là j'en chie. Je me demande si je vais pas perdre ma mâchoire et que bientôt je ne pourrai plus tenir ce rendez-vous parce que j'aurai perdu la moitié de, voilà, moitié de visage, quoi. Fais voir ton dos, monsieur Samuel Yakuza Etienne. Non, c'est pas mon dos qui est tatoué, c'est de l'autre côté. Mon café a l'air délicieux. Bon, c'est un café au lait, c'est du lait, du café. J'espère que ta dentiste ne regarde pas le stream. Ouais, moi aussi. Mais elle est adorable, elle est super gentille, elle est sûrement super compétente et tout, mais j'ai super mal en fait. Super mal. Merci pour vos bons conseils en tout cas. Hein. Bon, on lit ce dossier de l'humanité qui m'a un petit peu interpellé. Ce matin, ça va taper. Ça va taper sur les riches du côté de l'humain. Bon, c'est pas une énorme surprise. C'est un peu dans la ligne éditoriale de l'humanité de taper sur ceux qui ont beaucoup, beaucoup de sous. Et là, il y a un grand coup sur la nuque des milliardaires. C'est criminel. C'est criminel climatique, dit l'humanité, dénonce même ce matin. Le journal, les appels à la sobriété pour que tout le monde, pour nous, hein, tout un chacun, puisque a priori, je ne suis pas milliardaire et vous ne l'êtes pas non plus. Sauf ceux qui sopent beaucoup, masquent le véritable carnage écologique, donc les mots sont lâchés, on dit les termes ce matin dans l'UMA, qu'engendrent les inégalités sociales et l'ultra-concentration des richesses. Quand on regarde les trajets de l'avion de Bernard Arnault, dit Eddie Drag, et bien c'est notamment de ça dont il s'agit. Le carnage écologique des ultra-riches, et l'UMA qui écrit, dans un monde où la sobriété s'impose aux plus pauvres, du fait de la hausse des températures, les milliardaires, eux, continuent de polluer sans compter, jets privés, yachts, tourisme spatial, leurs activités de luxe hypothèquent notre futur. Ils prennent un jet privé, un yacht, un hélicoptère comme nous, on prend un train, un bus, un vélo, ils voient le monde comme leur terrain de jeu, les frontières n'existent plus, monter à 12 500 mètres d'altitude pour une demi-heure de vol est leur quotidien, avec un kérosène moins taxé que l'essence de monsieur et madame tout le monde s'il vous plaît, ils, ce sont les ultra-riches. Ceux qui, au mépris de l'urgence climatique, et parce qu'ils en ont les moyens, se comportent comme si l'humanité ne vivait pas déjà à crédit, ayant consommé dès le 28 juillet cette année l'ensemble des ressources que la Terre peut générer en une année. Ils s'appellent comment ? Bernard Arnault, Xavier Niel, Vincent Bolloré, Jeff Bezos, Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg et composent une élite capitaliste s'affichant dans une des magazines financiers comme un mode de réussite. Leur fortune pourrait sauver la planète et l'espèce humaine avec. Mais ils passent leur temps à la saccager. L'équation est des plus simples. Plus on est riche, plus on pollue. D'après une étude du laboratoire des inégalités mondiales de décembre 2021, les 1% plus fortunés émettent plus de dioxyde de carbone que les 50% les plus modestes. Les 1% les plus fortunés émettent plus de CO2 que les 50% les plus modestes. Les premiers sont à l'origine de 17% des gaz à effet de serre, quand les seconds n'en sont responsables que de 12%. Sans parler de la destruction de la biodiversité, terrestre comme marine, qu'implique leur mode de vie, et leurs luxueuses vacances nous coûtent cher, ça n'est rien comparé au bilan carbone de leurs investissements et de leurs entreprises dans les secteurs polluants, à l'échelle de la France par exemple, pour prendre un exemple qui nous concerne directement. À l'échelle de la France, lorsque est inclus au calcul le poids climatique du patrimoine financier, non pas seulement des déplacements, des activités, les ONG Oxfam et Greenpeace trouvent une donnée effrayante, 63 milliardaires émettent autant de CO2 que la moitié de la population hexagonale. 63 milliardaires, donc en France, émettent autant de CO2 que la moitié de la population hexagonale, si on rajoute leurs activités liées à leurs entreprises et leurs investissements. Pour autant, ça n'est pas à eux, aux gros pollueurs que le gouvernement macroniste demande de la sobriété, écrit Dumas, c'est aux simples quidam, donc c'est à nous, qui pratiquent déjà une sobriété forcée du fait des revenus, que l'on demande de faire des petits gestes du quotidien qui seuls ne sauveront personne de la catastrophe. Les ministres donnent du débrancher son wifi la nuit, du baisser la climatisation, du éteindre la lumière à longueur de plateau sans oser s'attaquer au vrai problème. Les milliardaires et le système qui leur permet de perdurer. En 2018, c'est la conclusion de l'article d'Emilio Mellet, en 2018, Emmanuel Macron préférait instaurer une taxe carbone pesant sur tout un chacun plutôt qu'un ISF climatique tel que le proposent par exemple aujourd'hui les députés LFI de la NUP ainsi que plusieurs associations écologistes. Ils sont les vrais criminels climatiques. Vous en pensez quoi, vous, de ce dossier ? C'est l'humanité. Certains, je crois que certains sont d'accord avec l'analyse. Je suis en train de vous lire. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est une analyse juste ou pas, selon vous ? Tiens, par exemple, c'est intéressant. Vive les cotorèpes. Écrit, c'est vrai, dans l'analyse de l'humanité, c'est vrai. Mais au lieu de concentrer sur les petits loisirs des très riches, il faut se concentrer sur les productions hyper polluantes des grosses entreprises. Medjeu estime que c'est démagogue, que cet article est démagogique. Phonobs estime que c'est un petit peu un raccourci, hein, qu'il faut expliquer que ce sont les entreprises qui polluent. Et pas celui forcément qui la possède. Hein, Tibet, c'est pas ultra honnête. Je veux dire, si le gars a une entreprise de cravate, oui, ça va augmenter son CO2 émis, mais ça fait de l'emploi. C'est vrai que le raccourci entre l'entreprise possédée et la pollution, oui, il y a un petit peu, oui. Voilà, ça tient de l'art, cette capacité qu'a l'humain à torturer les chiffres, à taper à côté des vrais problèmes. Et Steve Funkybot, par exemple, vous voyez, tout le monde, vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus. Mais en même temps, ils font travailler des milliers de personnes, dit Syl Gaviel. Ah, ça me fait plaisir ça. Il y a Caro qui dit c'est une véritable honte. Si je n'étais sur ton stream, je serais beaucoup plus vindicatif dans mes propos. Ça veut dire que c'est parce que tu es sur mon stream, tu fais attention à la façon dont tu exprimes ta colère, et ça me fait plaisir parce que je trouve qu'on peut exprimer tout ce qu'on veut ici, mais le faire sans trop de violence les uns par rapport aux autres, c'est quand même plus cool. On va continuer le dossier, hein. Je voulais juste avoir votre avis sur ces premières lignes. Descend, ils se prennent pour l'élite, une classe supérieure, au-dessus de tout. Ce sont en réalité la principale gangrène du monde. Mes envies sont celles des autres, les ultra-riches sont les premiers à entretenir un modèle qui détruit l'environnement dont nous dépendons et qui déchire par ailleurs le tissu social. Intéressant ce que dit Curious. Après l'effondrement, c'est un compte Twitter, disait quelque chose d'intéressant. En réalité, malgré ces chiffres de comparaison qu'on évoque ce matin avec l'humanité, l'impact est important, mais n'est pas fondamental. L'effet le plus important est l'exemplarité que présentent les personnalités qui poussent à l'inaction de tous. Encage dénonce un article qui s'adresse à ses lecteurs, dogmatique et partial. Rajax préfère en sourire. En tant que riche, j'aimerais garder mon train de vie. Merci de faire plus d'efforts. Donc les plébéiens amicalement. Merci à toi. Scarbonne. Bonjour Sam. Moi je trouve que ça table là où ça fait mal. Cela dit, il y a des nuances à prendre. Car il parle par exemple de leur entreprise dans laquelle nous travaillons. Et donc nous achetons leurs produits. Nous restons tous responsables. Merci Ella. Ella. Non, plutôt, elle, ah si, c'est, elle a, je l'ai. Et merci pour le troisième mois d'abonnement. Alors, donc, dans la dénonciation du comportement des ultra-riches, notamment, il y a l'aspect de leur transport, il y a plus en plus de sites internet, sinon d'applis, qui pistent les déplacements des ultra-riches, notamment dans leur jet privé. Le name and shame contre les écocidaires, c'est... Ce dossier, page 4 dans l'Huma, ce matin, les milliardaires doivent avoir le sommeil agité en ce moment. C'est vrai qu'il paraît que ça commence à les énerver. De nombreux comptes sur les réseaux sociaux traquent et dénoncent leur mode de vie climaticide, notamment leur trajet en jet privé. Alors c'est vrai que quelqu'un disait de façon intéressante, c'est pas forcément l'impact sur le réchauffement climatique qui se pose là, mais c'est peut-être aussi une question d'exemplarité. En suédois, la culpabilité de prendre l'avion porte un nom, vous le savez peut-être. Flygskam, j'espère que je prononce pas trop mal. 3 ans après la large diffusion de ce terme, des militants numériques décident de retourner le stigmate de la honte vers les vrais pollueurs. Elon Jet, l'avion de Bernard, iFly Bernard, Celebrity Jet. Ces derniers mois, de nombreux comptes Twitter et Instagram traquent les trajets aériens des milliardaires. Leur concept, exposer publiquement le bilan carbone des ultra-riches, cette pratique qui porte aussi un nom, le name and shame, nommé et couvrir de honte. En France, le projet L'Avion de Bernard, par exemple, Arnaud, je suppose, hein, lancé en mai sur Instagram, est né du calcul de l'empreinte carbone d'un trajet de l'avion du groupe LVMH, propriété de Bernard Arnault, à partir des données de vol public et de la consommation moyenne de kérosène des jets. Après avoir estimé à 176 tonnes de CO2 les émissions pour le mois de mai, soit 17 ans d'empreinte carbone d'un Français moyen en un mois, les deux créateurs qui préfèrent rester anonymes ont décidé de lancer ce compte suivi par près de 70 000 abonnés. Ils ne sont pas les seuls à vouloir épingler les milliardaires hexagonaux. Julien, ingénieur dans l'aéronautique, créateur du compte iFly Bernard sur Twitter, s'explique « On peut couper son Wi-Fi autant de temps que l'on veut. Si les milliardaires prennent leur jet 6 fois dans la journée, ça ne sert à rien. Il faut commencer par lutter contre les plus gros pollueurs, c'est-à-dire les riches. C'est ce que j'essaye de faire, dit cet ingénieur. » Pour Alice Kanabat, qui est docteur en sociologie, le name and shame trouve une dynamique particulière ces derniers temps. Selon la sociologue, leur succès viendrait d'une saturation de la population, du décalage entre les efforts qui sont demandés aux citoyens, qui nous sont demandés, et le mode de vie dispendieux des plus riches. Winnie Sam, Re-Samuel, merci à vous, j'ai pu dormir 1 heure. Grâce à votre voix, je ne sais pas si je dois bien le prendre. Si ma voix t'endort, c'est aussi quelque part que ce que je raconte ce matin n'est pas très intéressant. Mais merci à toi. Je suis content d'avoir participé à ton sommeil. Il y a Babou Barbu qui dit, imagine, t'as tellement d'argent que tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Ce serait tellement faux cul de dire, moi, je ferais pas ça. Moi, le premier, dit Babou Barbu, je ferais péter le tourisme spatial et des semaines de vacances sur un gros yacht à faire trois tours d'hélico par jour. Je sais pas si tu ferais ça. Moi, alors c'est, tu dis que ce serait faux cul, moi, je ferais pas ça, en vrai. Je pense que c'est vraiment pas très exemplaire, quoi. Bon, j'aurais pas du haut déjà, parce que je pense que c'est que des emmerdes. J'aurais pas d'hélicoptère, je trouve ça dangereux. Et puis la fusée non plus. C'est pas faux cul, je ferais pas tout ça, moi. J'irai à la pêche. Et encore, sans pêcher les poissons. Sans hameçon, en fait. Voilà. À la cool. En écoutant la radio, en écoutant de la musique, en lisant des livres. Je ferais chier personne. Et puis j'irai en vélo. Bon, ça, c'est si je gagne l'Euromillion, ça. Est-ce qu'il reste un... Ah, c'est tout, l'humain. Ouais. Bon. En tout cas, le dossier de l'humain est un peu plus important que ce que je vous ai montré. N'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est dans l'humanité du jour. On va finir avec un petit peu de sport. Un peu de football, parce que c'est quand même la reprise du championnat de Ligue 1. Ça n'est pas rien. Donc, j'ai tous les scores ici. D'abord, l'équipe salue l'OM qui commence bien cette rentrée. C'est bien parce qu'il y a des petites tensions au niveau de l'OM. Là, c'est un peu tendu la rentrée, notamment avec le nouveau propriétaire et le nouvel entraîneur. Je suis pas spécialiste, mais j'ai vu que c'était un petit peu tendu. Donc, champagne d'entrée. Ça aurait pu coller au premier match du PSG aussi, qui s'est imposé 5-0 contre Clermont. Mais là, c'est contre Marseille qui a reçu. Ah, qui recevait Reims, d'où le champagne. J'ai la rêve de la blague. Après les tensions lors de la préparation estivale, l'OM a parfaitement négocié son premier match. C'est mieux de commencer comme ça, avec une belle victoire, grâce notamment à un doublé de sa nouvelle recrue colombienne, Luis Suárez. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je me dis que c'est peut-être ce jeune homme qui fait un cœur. Sur les rails, donc le nouvel OM d'Igor Tudor. Qui n'est pas un pseudo, hein. Sifflé à l'annonce des équipes a largement dominé une faible équipe de Reims. Ses choix ont fonctionné, les recrues ont brillé. Pourtant, Manu Payet était sur le banc des remplaçants au début du match. Voilà qui va apaiser le climat pour un temps. Il y a les supporters de l'OM là. Vous en pensez quoi? C'est bien ou pas? C'est bien. L'OM, le nouvel entraîneur. Oh, pas Manu, putain, à chaque fois je dis Manu Payet, putain, à chaque fois. C'est Dimitri, bordel. Je la fais à chaque fois, hein. Ne soyez pas étonnés. À chaque fois. Pourquoi je veux l'appeler Dimitri? Bah si, je sais pourquoi je veux l'appeler Dimitri. Il y a des supporters de l'OM ou pas? C'est bien, ils vont gagner le championnat. C'est l'OM qui va gagner cette année? C'est Rennes? C'est qui? Les latéraux de l'OM sont bons cette année. Voilà du commentaire de spécialiste. Peur de l'entraîneur, mais sinon c'est sympa comme équipe. Bon, en tout cas, ça se passe bien. Igor Tudor, donc c'est toujours un vrai nom, a réussi sa première à l'Orange Vélodrome. Son équipe a étrié Reims 4-1. C'est un soulagement pour beaucoup de monde au club, des supporters aux dirigeants, en premier lieu pour le président de l'OM qui a choisi le technicien croate. Donc Igor Tudor, il est croate. Et bouleversé l'effectif dans les grandes largeurs à l'intersaison. Le nom de Tudor a été copieusement sifflé par le stade à l'annonce des équipes, avant même le début du match. Arrêtez de vous moquer de Rennes, je vous interdis. Une bronca inédite pour le premier match d'un technicien à la tête de l'OM qui montre que l'opération séduction va prendre un petit peu de temps. J'ai tous les résultats là, à l'issue de la première journée de la Ligue 1. Donc PSG en tête, à la faveur de la différence de but, bien sûr. Marseille a gagné aussi, deuxième position. Victoire pour Lille aussi, 3 points. Et Montpellier et Lens, voici les 5 premiers. Monaco, Lyon, Lorient, Nice, Toulouse, Angers, Nantes, 3, Brest, Ajaccio, Strasbourg. Et puis les derniers, les 4 derniers. Donc des défaites pour Rennes, pour Reims, pour Auxerre, pour Clermont, 17, 18, 19, 20. C'est vrai que Rennes, pour un premier match à domicile face à Lorient, s'incliner comme ils l'ont fait. Vous avez tous les résultats ici. Hop, je zoome un petit peu. C'est pas terrible. Ouais. 1-0 pour les Lorientais sur la pelouse de Rennes. Voilà. Neymar, Messi ont l'air de bien s'entendre cette année. C'est ce que disaient les journaux ce week-end, que j'ai pas pu vous lire puisque j'étais parti à la campagne. C'est vrai que Mbappé était même pas sur le terrain. Et c'est vrai que le PSG a été plutôt brillant. Bonjour, encore en live à 14h, longue matinée aujourd'hui. En fait, c'est parce que j'étais invité d'Europe 1 ce matin et j'ai commencé mon live à 11h30, c'est pour ça. En sport, qu'est-ce qui vous a marqué ce matin? Ce week-end, vous avez suivi quoi en sport? Parce que j'ai vu d'autres articles, je vous ai pas mis tout de côté. La moto, par exemple, le fait que Zarco, pole position, s'est bourré tout seul. Ouais, la chute de Zarco, c'est chaud, ça. J'étais triste, j'étais triste. Et Quartararo qui a limité la casse en marquant quelques points quand même. Ouais. Le TFC va être la bonne surprise cette saison. Ouais. La victoire de Lens, chacun y va de sa petite équipe. Ok. C'est tout, il y avait d'autres choses. Non, 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 le sport, ça vous a pas plus inspiré que ça. Merci Caroc. Oh Caro, tu lis gentiment. Je dois partir, c'était vraiment des articles à grands enjeux, très intéressants aujourd'hui, je trouve presque trop en fait. Je trouvais que j'aurais voulu deux dossiers comme ça, on en a eu cinq ou six de très gros dossiers où il aurait fallu prendre le temps, faire des recherches, trouver d'autres articles, éclairer, débattre, faire des sondages. Enfin, j'avais trop de gros dossiers ce matin, c'est ça qui me gênait un petit peu. Pour un 8 août, j'ai trouvé que c'était extrêmement chargé. Oh, ça c'est méchant, Tilakonis. Oui, on dit TFC en plus, je le sais Antoine, qu'on dit TFC, j'ai honte. Putain, le Toulouse c'est TFC, je le sais en plus. Je le sais. La honte. La honte. Bon, allez, 14h. On a lancé à quelle heure? 11h30. Bon, ça fait un petit stream de 2h40. Tranquillement. Voilà. Tranquillement. Les amis, merci. Une promesse. Merci, Sir Janky, pour le 9e mois d'abonnement. Oh, c'est gentil. Oui, je crois que j'ai vu ton message d'ailleurs. C'est vrai. Tu me les as envoyés sur Twitter ou sur Twitch? Je vais aller voir. Donc, c'est une promesse. Je suis là demain, mardi. Je suis là demain, mardi. Je suis là mercredi. Je suis là jeudi. Je suis là vendredi. Tous les matins de cette semaine, 8h30, 8h45, je serai là avec tous les articles en essayant de trouver un bon mix entre nouvelles graves et nouvelles un peu plus légères. Je serai là tous les matins, tous les matins. Julo, je ne t'oublie pas pour notre histoire de code, tout ça, j'ai rien compris, mais je te fais confiance. Et samedi, dimanche prochain, j'ai un petit doute parce que je pars chercher mon malo en région. Parce qu'un jour chez sa grand-mère, il commence à me manquer sauvagement, mon petit loulou. Donc samedi et dimanche, je suis pas sûr, à moins que j'emmène mon setup en région dans ma petite valise pour streamer de là-bas, pour ajouter un samedi ou un dimanche. Voilà. En tout cas, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les matins, je serai là à 8h30, 8h45. Et je suis content d'être là avec vous cet été et cet échange qu'on a au quotidien sur l'actualité. Pendant ce temps, je continue de bosser sur deux choses. Je vous emmène dans un musée bientôt. En région, voilà, comme on l'a fait pour le Louvre, pour le musée d'Orsay, la Fondation Louis Vuitton. Je vous emmène dans un musée bientôt, je vous en dirai un peu plus. Pour l'instant, c'est encore un peu secret, mais ça arrive très très vite. Et puis, je continue à préparer cette nouvelle émission hebdomadaire que je vous prépare sur Twitch. Première date, très bientôt. Voilà, et ce sera je vous dis pas le jour encore, ce sera une grande surprise avec trois invités à chaque fois pour parler de l'actualité de la semaine. Ce sera une espèce de rewind. On reviendra sur l'actualité de la semaine avec trois invités. Voilà. Donc ça, je suis en train de bosser là-dessus parce qu'il faut que ce sera à la cool, à la maison, toujours de façon artisanale. On ne va pas prendre un grand studio, 15 000 caméras. Sinon, ça s'appelle de la télé, ça ne m'intéresse pas trop parce que j'en fais déjà un petit peu. Mais on fait ça bientôt à la maison, tranquillement. Voilà. Donc, je continue à bosser là-dessus. Un petit stream tous les matins. La semaine suivante, je serai encore off de France Info et de questions pour un champion. Puis la semaine d'après, tout va reprendre. France Info, questions pour un champion, la matinée Étienne. Les visites dans les musées, la nouvelle émission hebdomadaire, ça va être chargé, mais c'est comme ça que c'est bon. Merci Tubbs, j'aime beaucoup ton pseudo, merci pour le 4e mois d'abonnement. Et je vous dis à très bientôt. Et si on faisait un raid? Merci Sins, Sagittaire. Et si on faisait un raid, ok? Quand t'es en vacances, il n'y a pas d'émission question pour un champion? Si, parce qu'on a tout enregistré. Tout est en stock, En mai-juin, on met les bouchées doubles. Et donc, toutes les émissions que vous avez en ce moment, des questions pour un champion, des questions pour un super champion, c'est du live, c'est du direct. Non, pas du tout, c'est enregistré. Mais c'est l'inédit, c'est du frais. C'est du frais. Voilà. Donc, question pour un champion, il n'y a jamais de rediffusion. Voilà. Et ça cartonne d'ailleurs, vous êtes super nombreux à regarder en ce moment, ça me fait bien plaisir. Donc, à demain matin, ou à 17h45 pour question pour un champion sur France 3. Faites-moi des propositions maintenant dans le chat de gens qui sont en live actuellement, des streamers, des streameuses, qui n'ont pas beaucoup de public, qui n'ont pas beaucoup de viewers, qui n'ont pas des grosses communautés pour l'instant et qui ne demandent qu'un petit coup de pouce, un petit éclairage pour eux. Pour être connu de vous. Donc voilà, faites-moi des propales. Je vous mets un petit écran de pause. Allez, j'en ai pour 2 minutes chrono. Hop, il est où mon écran de pause ? Il est là. C'était bien cette petite musique de tout à l'heure. 2 minutes chrono et on raid tous ensemble. Je lis vos propositions à tout de suite. Restez, c'est toujours sympa. Alors. Super bizarre, je m'a proposé un raid vers une chaîne, mais en fait c'est trop beau et j'arrive pas à déterminer si c'est un si c'est vrai ou si c'est un ou si c'est de la réalité virtuelle, si c'est un jeu, c'est pas possible. Et quelqu'un qui est sur un bateau qui stream sur un voilier et en fait c'est trop beau, c'est pas possible. On peut streamer depuis un voilier comme ça avec cette qualité d'image. Écoutez, on y va, on va voir ce que c'est. On va voir la chaîne de Gaspard qui est sur un voilier. Mais c'est presque trop beau pour être vrai. Je lance le raid, on verra bien. Je lance, on voit bien. Merci en tout cas les amis. J'ai passé un super moment avec vous. Le raid parle en 3, 2, 1. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. À demain sur Twitch, 8h30, 8h45. C'est quoi cette histoire de voilier ? Allons voir. Allons naviguer ensemble. Dites-lui bonjour de ma part au capitaine.